Killer, puissance 1 million. Et là, on serait dans un. Mais aujourd'hui, on écrit un roman où, évidemment, on est conforme à tout ce qui a été écrit dans la prétendue histoire de ces mouvements, c'est-à-dire c'est le patronat qui a aidé le nazisme à monter, tout ça, etc. Ça, de ça, je m'en fous royalement. Je le sais, c'est acquis chez moi, j'ai pas envie de le relire. En revanche, je lis avec plaisir et délectation, en poche, en.
Sur l'arbre à lettres, les mains vissées en sang et en sienne ont gravé sur ses os des grèves de ses os. On grappe avec des grèves de la bête, mâchoire serrée, elle donne sa tête et c'est le mur qui reste. Maintenant, on parle d'un arbre à sang duquel ils ne peuvent traduire la souche et cette odeur de soufre qui passe dans ton crâne. Petit moissonneur en devenir de nos âmes, ne laisse pas les hommes en blanc te fermer la bouche, parce que la vérité est morte en couche, et que tu es son dernier testament, l'ultime survivant. Tu sais, les avions de la mort, ils veulent changer nos ciels, et qu'ils ne viendront plus les sauveurs éternels. Et comme ils te maintiennent dans une version virtuelle, à l'abri des questions dans leur belle citadelle, toi, tu es vivant, tu pars à la recherche de toutes les pierres qui tiennent debout pour voir si ton père est couché en dessous. Et c'est l'enfer qui te hante dans les allées du peuple que tu fréquentes, rendu chic et tu es l'hérétique. Tu nommes ton quartier la cité interdite où tu joues le diable dans la musique. C'est pour t'émanciper du contrôle.
Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, on va vous parler de Gilets jaunes. C'est un sujet que tout le monde entend parler dans les infos. Moi, j'avais un peu du mal à aborder le sujet sans vraiment aller voir de quoi il s'agissait. J'ai pas fait de manif. Je suis parti sur la place des Fêtes à Belleville, tout en haut de la rue de Belleville, dans le 19e arrondissement de Paris. Et là est installée la première cabane du peuple de Paris. C'est là que se sont installés un certain nombre de manifestants, à côté d'une haute pyramide avec une cabane, du café, de la soupe, des repas populaires et tout. Enfin voilà, un truc très chouette. Et j'imagine que si vous allez les voir là, vous irez les voir un peu comme moi je les ai rencontrés sur un son de slam qui grossit, qui grossit, qui grossit.
On sent et on sienne, on gravait sur ses os des grèves de ses os, on grappe avec des grèves de la bête, mâchoire serrée, elle donne sa tête, et c'est le mur qui reste. Maintenant, on parle d'un arbre à sang, duquel ils ne peuvent traduire la souche et cette odeur de soufre qui passe dans ton crâne. Petit moissonneur en devenir de nos âmes, ne laisse pas les hommes en blanc te fermer la bouche, parce que la vérité est morte en couche, et que tu es son dernier testament, l'ultime survivant. Tu sais, les avions de la mort, ils veulent changer nos ciels, et qu'ils ne viendront plus les sauveurs éternels. Et comme ils te maintiennent dans une version virtuelle, à l'abri des questions dans leur belle citadelle, toi, tu es vivant, tu pars à la recherche de toutes les pierres qui tiennent debout pour voir si ton père est couché en dessous. Et c'est l'enfer qui te hante dans les allées du peuple que tu fréquentes, rendu chic, et tu es l'hérétique. Tu nommes ton quartier la cité interdite où tu joues le diable dans la musique. C'est pour t'émanciper du contrôle de l'élite, car c'est le seul qui reste, le sang. Le sang, c'est le sang qui apaise. Si tu renonces au sang, tu renonces à tes ailes. Et toi, tu ne renonces jamais à rien. Et tu les tues au moins une fois, comme ils méritent tous de mourir au moins une fois. Et tu ne tombes jamais sur meilleur que toi. Tu es jeune. Tu vas à leur enterrement, c'est pour le grand soulèvement. Et un soleil de mars s'est abattu, et nous les avons vus arracher leur visage, mais sans se mettre à nu, se défaire de ce singe qui se plante sur un arbre. C'est le destin en marche, c'est la forêt, ce qu'on nous cache, ce qu'ils ont volé au monde des vivants pour nous élaborer les murs et les comas. Pour nous préparer au temps qu'on nous vendra. Ça viendra du très haut pour ceux qui sont très bas. Ils diront que c'est bien, c'est la sécurité. Ce qui est bien pour eux et qui n'est qu'un rempart pour leur dernière richesse et leur dernier pouvoir. Ce bien n'est pas le tien. Et il semble que tu n'es rien lorsqu'on te le demande, ce nom, bon sang, ce nom. Voilà pourquoi tu trembles. Tu ne veux pas qu'on t'étrangle avec une nouvelle sangle, car quelque chose résiste, existe, ses racines dans le mal qui couvait sous la cendre, comme un champ magnétique à la dernière rafale lorsqu'on t'aura raflé, car tu n'as pas signé pour te soumettre au Schmitt. Et tu seras surpris d'échapper aux tireurs d'élite. Toi, tu es le sale gosse, et tu as toujours su que leur monde tomberait sur un os. Toi, moi, nous, les précoques, les précoces, les punks, les animorphes, les délinquants judiciaires du casier de la strophe, quasi mort, quasi off de la vie générale. Mais c'est ce dont on parle, et c'est ce qui finit par faire le bien commun et le ménage autour, comme un tireur d'élite au milieu de la cour. C'est la vie générale, et la vie générale est à la paix des singes dans les laboratoires des grands patrons. Toi, tu as dit non. Toi, tu es l'infidèle là où il n'y a pas lieu d'être marié, car il n'y a que des castes et ceux qui vont crever, car il n'y a que la masse et ceux qui vont rester.
Ouais,
Donc voilà, c'était Paloma au micro qui m'avait lancé en fait sur cet événement et qui m'avait gentiment parlé de ce qui allait se passer sur cette place en me disant bah viens voir, viens, on est en train de faire un truc génial. Et donc du coup ben voilà, j'y étais et je suis arrivé sur cette ambiance, une petite dizaine de personnes sur le coin dans un préau un peu à l'abri du vent. Et en plein milieu de ce terre-plein, cette sorte de petite pyramide très haute d'une quinzaine de mètres. Mais je vais vous laisser, Garance, vous parler de tout ça.
Excuse-moi.
Alors, comment tu t'appelles, juste en
prénom ?
Garance. Alors Garance, je t'ai connue sur Nuit Debout.
Ouais.
Et là, je te retrouve.
Ouais.
Ici.
Trois ans après. Alors ici, c'est Place des Fêtes, dans le 19e à Paris. Et c'est la cabane jaune, qui se veut une cabane populaire, gilet jaune.
D'accord.
Voilà.
Tu me la présentes ?
Bien sûr, viens avec moi. Avec plaisir, je ne m'attendais pas à te voir, très cher. Ça fait plaisir. Et tu dis, bah voilà, regarde, alors pour t'expliquer... On a discuté de...
Tu sais qu'il faut que ce soit hyper visuel, parce que les gens, ils voient pas, en fait.
Ouais, il faut que ce soit hyper visuel, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que dans tes descriptions, tu dis, ça, c'est un truc carré, un truc grand...
D'accord. Alors là, on a une pyramide de 15 mètres de haut, qui est au centre de la place, et qui est une entrée de parking, qui est toute taguée à la base, qu'on va repeindre en jaune dimanche. Et en face, il y a un cap-là qui est utilisé par 4 assos du quartier. Là, j'ose pas dire les noms. Il y a le collectif Place des Fêtes, maire, je ne sais plus, merde, j'ai oublié les noms, ça craint. Merde, ça craint. Bon, et du coup, voilà, ils nous ont autorisé à nous installer là. On a récupéré des trucs dans le quartier, des planches en bois, des palettes. On a tout monté au Théâtre de Verre qui nous a mis à dispo 24 heures de l'espace chez eux. On a préconstruit là-bas et on a tout ramené ici. Et depuis vendredi, on occupe. On offre le café, on a des tracts, il y a des gens qui passent. On a fait une bouffe pour 100 personnes dimanche. Et on refait une bouffe pour 100 personnes gratos dimanche. C'est même pas à prix libre, c'est gratos.
D'accord. Alors, donc, du coup, ça sera avant la diffusion de l'émission. Parce que l'émission passe mardi. Et aujourd'hui, on est le vendredi 1er mars. Donc, du coup, l'émission va passer mardi 5 mars.
D'accord.
Donc, du coup, bah, peut-être que je raconterai ce qui s'est passé, ou peut-être en écoutant, les gens vont savoir un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe pendant ce week-end. Donc ça, c'est la première journée de votre occupation. Ah. Ça a commencé hier, en fait.
Non, ça a commencé vendredi dernier déjà.
Vendredi dernier.
Et donc, ça fait une semaine, là, pile.
Et du coup, il y a des gens qui dorment en permanence
non.
ici.
Non, alors il n'y a pas de gens qui dorment en permanence, mais on reste assez tard, parfois jusqu'à 2-3 heures. Et il y a quelqu'un qui vient à 7h du matin. Et on a un planning que tu vois là-bas en gris, qui est accroché contre le conteneur. Mmh. Et là, on a fait un planning où les gens mettent leur prénom ou leur pseudo pour prendre un tour de garde.
D'accord.
Bon, je t'avoue que les gens ne se mettent pas trop leur nom, en fait. Mais c'est pas plus mal, parce qu'il y a un flic qui est passé pour prendre une photo tout à l'heure.
D'accord.
Okay. Donc, voilà.
Ok. D'accord, bah c'est super cool. Alors... À qui je dois interroger ici pour me parler un peu de la lutte et pourquoi on est là ?
Alors, tu as François. En fait, pour te dire, on était un petit groupe de l'AG de Belleville à proposer la Maison du Peuple. Et en attendant de faire une Maison du Peuple, on a voulu faire une Cabane du Peuple.
D'accord.
Et donc, on était une dizaine à la base. Et puis après, ça s'est agrandi. On espère que ça a pulluler partout. Et du coup, là, il y a deux projets initiaux. Tu as François, là, qui est là. Et
avec
la barbe. La barbe, le beau brun aux yeux bleus là-bas.
D'accord, ok, on va aller le voir.
Voilà, il y a lui, et puis il y a Paloma qui a organisé la soirée slam.
Ouais.
Mais là, elle est un peu occupée vu qu'elle est en train de slammer. Et puis t'as d'autres qui vont arriver, puis t'as tous les gens qui participent. Il y a Amparo, qui est de l'AG de Belleville aussi,
mm-hmm.
qui était pas trop sur la construction de la cabane, mais qui vient à la cabane vachement.
D'accord.
Donc il nous a rejoint pour auto-organiser la gestion du truc.
D'accord.
Donc tu peux parler à Amparo, tu peux parler à François, tu peux parler... Il y a Paul qui est assez souvent là.
Ouais.
Jeanne, ça fait deux jours qu'elle vient vachement.
Ouais.
Là, t'as quelqu'un de l'Assemblée de Belleville qui est là depuis le début, Nico.
D'accord. Peut-être qu'ils peuvent me faire la présentation de ce que
Et il y a Charles aussi qui est un super pote. Je l'ai connu à la première AG de Belleville et depuis,
d'accord.
on se lâche pas. On se croise en manif et tout ça.
Okay.
Et il nous aide. C'est cool. Il vient de la banlieue de Poissy.
Super.
C'est un gilet jaune de Poissy.
Super.
C'est la première fois que je le vois en gilet jaune.
Bonjour.
Bonjour. Je suis de Radio Libertaire et là je suis en train d'enregistrer mon émission de mardi prochain.
Ok.
Donc là c'est en train d'enregistrer, je vous le dis tout de suite. Ça vous embête ?
Non,
bah, cool. D'accord.
Je t'ai balancé, je t'ai dit.
Vas-y, va voir Cyprien, c'est ça ?
Non, j'ai pas dit Cyprien.
C'est toi, Garance ?
Ouais.
Salut.
Salut. Et toi, c'est qui ?
Alan.
Alan. Salut, Alan.
Parce que je te vois souvent plutôt sur des interfaces électroniques.
C'est quoi des interfaces électroniques ?
C'est des messages décryptés
Où Telegram.
Tout le monde parle et il y en a plus ou moins actifs.
Et encore, je suis dans deux groupes. Hein.
Et donc du coup, récemment sur un autre fil Telegram, on a parlé d'une femme qui s'appelait...
Tu
te rappelles ? Elisabeth Dmitriev.
Ah, je ne connais pas.
Parce que quelqu'un disait qu'il avait les rappeurs de je sais pas quel rappeur de France dans son cœur, et moi j'ai dit que j'avais Elisabeth Dmitriev dans mon cœur, mais tout le monde s'en foutait. C'était une révolutionnaire russe qui était liée à la Commune de Paris.
Ah ouais, ouais. Je la connais pas du tout, merde.
Et putain, du coup, Radio Libertaire,
ça flambe,
je me suis demandé
comment je me suis cramé et tout.
Je voyais toi et Sabrina, et je me suis dit, est-ce que ce seront les prochaines Elisabeth Dmitriev?
Oh non, arrête, tu veux que je rougisse et tout, c'est ça. C'est ça. Et elle est au même niveau que Louise Michel, c'est comment?
Bien plus que Louise.
Bien plus que Louise Michel. Et tu nous vois comme ça, Sabrina et moi.
Tu la présentes un peu?
Ah bah moi j'aimerais, parce que c'est elle qui a fait part dans ses dernières correspondances avec Marx, elle a fait pencher du côté anarchiste
et
travers la redécouverte des communes rurales russes.
Okay.
Et il lui a dit peut-être dans ses brouillons, ouais, peut-être qu'effectivement on n'a pas besoin de tout étatiser.
Ah ouais, dans ses brouillons, mais est-ce qu'il l'a mis dans le truc définitif, je suis pas certaine.
C'est assez peu lu,
relire ou lire. Ouais.
Mais bon, en tout cas. C'est elle qui lui a fait.
Comment elle s'appelle, tu dis ?
Elisabeth Dmitriev.
Dmitriev ?
Ouais.
Ok, je vais aller regarder ça ce soir. En urgence, quoi. Je vais lire toutes ses mémoires, tous ses courriers, toute sa correspondance.
Ça devient hyper culturel.
Non, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'elle soit dans nos cœurs. Quoi.
Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait ?
D'après les récits de Gustave Courbet, elle faisait partie des premières lignes quand les Versaillais sont rentrés dans Paris.
Gustave Courbet.
Ouais, de Gustave Courbet, qui était un communard.
Ouais. Ah ouais.
Et elle faisait partie des premières lignes qui défendaient
la
commune
hein.
quand. moi, j'ai pas vu ça à la fac non plus. Hein. Je veux dire qu'on voit pas ça à la fac. Et elle faisait partie notamment de l'Union, je crois que ça s'appelait l'Union des femmes, je crois, communarde, qui était...
L'Union des femmes communardes, ça existait.
Je crois que c'est un truc comme ça.
Ok.
C'est pas précis.
Putain, ce soir, on prend un level là dans la radio.
Mais si on met ça sur Radio Libertaire, je vais me faire bâcher parce que c'est pas précis.
Non, c'est très bien, très bien. J'adore, attends, je suis fan de la commune. Et du coup, elle a participé à des missions.
C'est ça.
C'est ça, mais tu vois, en général, il y avait des propositions un peu phares. S'il y a des propositions qu'elle a portées en particulier, il y a une thématique sur laquelle elle était forte un peu ou c'était plutôt une organisatrice.
Elle construisait des cabanes sur les barricades.
Je pense qu'elle était plutôt... Elle était plus dans des aspects pratiques. Je crois qu'elle était dans la coordination qui s'occupait de soigner et d'assurer le soin médical, etc., l'assistance dans la commune de Paris. Et elle était dans le combat.
D'accord.
Après, les prises de parole, c'était une époque où,
il n'y a pas de
traces, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est top. Alors, du coup, on est sous l'égide d'Elisabeth Dmitriev aujourd'hui sur la place de
fête.
Et du coup, c'est une cabane jaune. Initiée donc par les Gilets jaunes. Est-ce que toi, tu es là depuis quand? Vous participez à cette construction, à ce rassemblement depuis combien de temps? Est-ce que vous pouvez déjà me raconter l'histoire de...
Des gens, parce qu'en fait, ceux qui sont actifs, ceux qui parlent là font rien, et ceux qui sont actifs font tout.
Par définition, quoi.
Toi, tu peux parler quand même.
Ouais, je sais pas, c'est quoi la question?
Comme
moi, je suis là, j'essaye de suivre le mouvement des Gilets jaunes sur Paris depuis fin novembre.
D'accord.
Où je suis allé sur les champs, j'ai vu les gens construire les barricades, je me suis dit on va essayer de voir où on peut aller avec ce truc quoi. Et puis on faisait des assemblées à Belleville, ça parlait beaucoup, ça agissait un peu moins, et puis là depuis une semaine maintenant il y a la cabane, donc ça c'est c'est cool, ça fait de l'action, c'est intéressant quoi.
Là, on est un peu dans la fumée d'un feu qui vient d'être lancé, un bras zéro qui se prépare. Ça, c'est bien, hein, moi je suis bien avec ça, mais c'est pour donner un peu l'ambiance. Puis pour donner un peu l'ambiance, je te vois arriver, j'ai l'impression que tu sors du boulot, limite que tu viennes de la Défense.
Ah non, t'exagères.
Pas très loin, je viens de... Ah ben, je viens de pas très loin. Mais ouais, je viens de... Je bosse dans une boîte qui est à Levallois. Ouais.
D'accord. Non, parce que t'es veste, enfin t'as pas de gilet jaune sur toi, on pourrait pas penser, on pourrait... Est-ce qu'il y a un style d'ailleurs, du gilet jaune d'ailleurs? En dehors du fait de porter un gilet jaune, est-ce qu'il y a un style?
Bon, je sais pas, il paraît que c'est un mouvement qui vient plutôt des zones plutôt rurales du pays. Voilà, ça c'est un peu le cliché sur les gilets jaunes. Je pense que c'est un mouvement qui prend plein de formes selon l'endroit où il prend. A priori, il prend plutôt dans les zones moins citadines en tout cas. Mm-hmm. Donc, ouais.
D'accord. Ok. D'accord. Toi, c'est quoi qui t'amène là, dans cette lutte-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel qui dit je me reconnais dans cette lutte?
Il y a plein de choses personnelles, la volonté de... pardon. La volonté de se débarrasser du système capitaliste. Parce que oui, effectivement, j'ai un boulot, je suis peut-être pas partie de ceux qui galèrent le plus, mais n'empêche que voilà, j'ai aussi un patron, je le déteste aussi, j'ai aussi des chefs, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse faire des choses.
Alors, tu sais que la règle générale d'un bras zéro ou d'un feu, c'est qu'il te suit partout où tu vas. Donc on peut aller de l'autre côté, mais t'inquiète pas, il nous suivra, si tu veux.
Ouais, mais il y en a trop.
Donc ben voilà comment ça se passe un peu. Hein. On arrive, on commence déjà à discuter, on lance un peu les héroïnes. Les héroïnes, c'est quoi cet accord? On lance un peu les personnes sous lesquelles on bâtit tout cet ouvrage et toute cette cabane et tout ce toute cette lutte. Du coup, on va pas mal parler de Commercy ce soir. On va parler aussi de Saint-Nazaire. J'ai croisé un des gars qui participe à l'organisation de la deuxième assemblée des Gilets jaunes, hein, qui va avoir lieu en avril. Déjà du coup ce qu'on se donne un peu c'est une petite chorale de Commercy qui nous chante La Convive.
Je suis fille de marin qui traversa la mer. Je suis fille de soldat qui vient dans la guerre. Je suis fille de français qui vient à l'évader. Et fille du roi trop pauvre à marier. Fille de coureur des bois et de contrebandier. Enfant des sept nations et fille d'aventurier. Résister sans mêler, bien qu'on me les cacher. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La, 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 la. Quand je suis resté là, dans le temps des patrons, même le jour où ils ont passé la conscription, je suis de paysan et fils d'ouvrier. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne. Une alliance forcée de misère et de peine. Celle du génocide des premières nations. Celle de l'esclavage et des déportations. Celle de l'esclavage et des déportations. La 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 la. Si j'aime ce pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. La 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 la. L'autre pour les rois. Si j'aime ce pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître.
Donc voilà, c'était la chorale de Commercy. Donc c'est des vidéos que vous pouvez retrouver sur le compte YouTube des Gilets jaunes de Commercy. Il y a toute une série, beaucoup de vidéos de la dernière assemblée. Et vous allez voir, c'est passionnant à écouter. Et c'est constructif, et c'est enthousiasmant, et c'est tout plein de joie. Sur la place des fêtes, on revient. J'ai interviewé... un homme que j'ai appelé éducateur, mais je sais pas si c'était un éducateur. C'est une personne qui était là, qui portait un gilet jaune et qui a commencé à me dire un peu pourquoi il était là et ce qu'il faisait là.
C'est toi qui traite après, qui fait les montages et tout.
Tu pars
en dictaphone, en fait, tu pars en dictaphone.
Ouais, c'est ça.
Ça
t'embête pas?
Non, au contraire.
Ok. C'est pas sûr que je fasse du montage. Si c'est bien comme ça, je laisse.
Ouais, tu laisses.
Si c'est pas trop long, je laisse. J'ai 2 heures, donc je peux mettre ce que je veux.
Ah, c'est bien, c'est cool.
Tu me dis un peu.
Il y a plein de feu qui est tombé.
C'est pas grave, tu le ramasses correctement et tu le mets sur. Ouais, ça va. Ouais, ça va tranquille. Tu vas bien.
Alors, tu me dis ce qu'il y a marqué sur ton gilet jaune là.
Sur mon gilet, c'est pas le mien. Il y a marqué quoi sur ça? Il y a rien marqué, il y a rien.
Dans le dos, il y a des trucs, je crois. Hein.
Ouais, c'est ça, Mina, je me souviens plus. C'est quoi, c'est pour.
Paris n'appartient pas aux riches ni aux bobos.
Pas mal. Paris n'appartient pas aux riches ni aux bobos. Voilà. Voilà. Paris n'appartient ni aux riches ni aux bobos, c'est ce qui a marqué sur le gilet. Ouais.
D'accord. Ça fait combien de temps que tu es là?
Moi, ça fait combien de temps? J'ai suivi le mouvement Place des Fêtes. C'est des amis proches de moi qui sont à l'origine de l'idée. Ouais. Et en fait, on est là à peu près depuis vendredi dernier. Ça fait une semaine.
D'accord.
Ça fait une semaine que la cabane elle est ici. Et la cabane vit.
D'accord.
La cabane vit.
Comment elle vit?
La cabane vit, c'est-à-dire que c'est articulé autour de relations humaines, de mise en avant justement de bon sens, de connexion un petit peu, de relations avec le quartier. De discussion, de cohésion sociale, voilà. C'est de la cohésion sociale qui fait vivre la cabane. Donc, dans un premier temps, fixer 2-3 planches ensemble, donc ce qui fait un petit peu de cohésion. Après, ramener d'autres planches pour les fixer, ramener un petit peu de meubles, de matériel pour essayer de faire un petit salon, puis après faire un petit peu d'étanchéité, couvrir un peu la chose. On a été bien aidé avec la semaine dernière. Du coup, on est arrivé. La cabane jaune de Paris est arrivée avec la semaine ensoleillée. Voilà. Du coup, on a eu un ciel bleu pendant toute la semaine et ça a permis justement aux gens d'être reposés via la température et le bon climat, ouais. Et justement de stimuler en ce sens l'effet cabane jaune. Et donc tout le monde s'est rejoint. Là, on a tout le monde autour de nous. qu'on a tout le monde autour de nous. On a des enfants, on a des mères de famille qui cuisinent le dimanche pour les inaugurations, les repas gratuits.
D'accord.
Ouais, on fait des ateliers coloriage avec les enfants du quartier.
Ouais.
On a une assez bonne impression vis-à-vis de la place. La place est relativement populaire et c'est un quartier qui est densément peuplé.
Ouais.
Donc on est présenté au milieu de la place, au milieu de tout ce monde à qui appartient le quartier. Il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup de jeunes, toutes origines confondues. C'est magnifique. Et donc là, on est au milieu, on se représente petit à petit. Ça fait une semaine qu'on a réussi à prendre les lieux, mais à s'installer à la place des fêtes. Et on garde la même ligne directrice, qui est que on n'est pas meneur, on est ici, on met à disposition cette cabane justement pour avoir de la cohésion, pour avoir des retours d'observation. Il y a énormément d'appartements autour de nous, de domiciles où il se passe des choses en interne. Ils ont tous des télévisions, ils sont tous informés de la même manière que nous, ils voient tous la politique, ils sont tous un petit peu insultés de Gaulois réfractaires, de Sandan, de ceci, de cela. Donc ils nous observent de loin, certains, et ils se questionnent vraiment et on les voit. Et donc ils continuent leur chemin, mais ça les fait beaucoup penser. D'autres qui viennent, qui nous disent nous on est déjà convaincus, on met une pièce dans la boîte, merci, bon courage, et continuez votre travail, voyez avec les autres. D'autres qui s'arrêtent et qui ont une expression de visage complètement représentative de la propagande qui est menée à la télévision dans les médias mainstream. Ouais. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent comme ça, à l'air de dire vous êtes des gilets jaunes, vous êtes des terreaux, vous êtes des mauvais, vous allez tuer la France à cause de vous, l'économie s'arrête, Paris est mal vu, dans le monde, machin. Donc il y a des gens qui sont. Il y a un gros travail à mener ici. D'accord. Sur le terrain. Mais nous, on se représente socialement déjà les classes modestes et les faibles.
Et du coup, toi, on te pose quoi comme question ?
Moi, on me pose quoi comme question ? Depuis quand vous êtes là ?
Ouais.
Souvent.
Ouais.
Depuis quand vous êtes là ?
Donc, mais on ne te demande jamais pourquoi tu es là ?
On me demande pourquoi est-ce que je suis là ? Non. J'ai mon groupe de collègues qui sont ici, je me suis intégré petit à petit.
Ouais.
Et en fait, au fur et à mesure des affinités, moi j'arrive ici, je fais un petit peu partie de la famille.
Ouais.
Et non, on me demande jamais pourquoi est-ce que je suis là ou quoi, non.
Bah alors pourquoi t'es là ?
Moi je suis là justement pour faire capoter ce système de corrompus et de malfrats.
Ouais.
Et principalement, moi ce qui me ferait super plaisir, c'est l'abrogation de la loi 1973.
C'est quoi ça ?
La loi Giscard-Pompidou-Rothschild.
Qui, le regroupement des familles, c'est ça ?
Non, la loi Giscard-Pompidou-Rothschild, c'est ce qui... avant 73, la France imprime sa monnaie. C'est-à-dire qu'on imprime 1000, on est en dette de zéro. On imprime 1 million, on est en dette de zéro. On imprime 1 milliard, on est en dette de zéro. C'est notre imprimerie, ouais, avec notre industrie, notre PIB, notre pouvoir, ouais, qui met en avant notre monnaie pour pouvoir échanger avec nous.
D'accord.
On doit zéro à personne. Et là, du coup, comme Giscard a fait signer une loi sous son ministre Pompidou avec l'accord de la banque Rothschild, ils ont fait passer une loi depuis 1973 qui dit que tout argent qui est imprimé en France doit d'abord passer par la banque privée Rothschild et avoir des intérêts. Et donc, depuis cette loi 1973 jusqu'à aujourd'hui 2019, on est à un peu plus de 2280 milliards d'euros. Et plus on va avancer, plus ça va galoper vers le haut. Mmh. Ça va être en hausse.
D'accord.
Donc c'est ce qu'on appelle de l'usure irréversible. On est dans un système qui est en train de nous mâcher. Donc quand on nous dit il faut faire des économies au niveau de l'État, il faut faire des coupures de ça parce qu'on a nécessairement besoin. En fait, eux, ce qu'ils ne nous disent pas directement, c'est qu'ils ont besoin de renflouer dans l'aspiro-Rothschild, un aspirateur Rothschild,
ouais,
le contrat qu'ils ont signé avec eux en vendant la France et en vendant la souveraineté de la France monétaire.
Du coup, une fois qu'arrivait l'Europe, en passant à l'euro, tout ça,
c'est encore pire. C'est encore pire, non ? C'est encore pire. Bah non, c'est encore pire. C'est encore pire. À signer l'euro, ça y est, on est encore tombé dans un autre piège, encore un piège, encore dans d'autres pièges.
Ouais.
C'est le moment d'essayer de rassembler les gens et essayer d'expliquer tout ça. Quoi.
D'accord.
Ouais.
Ok, ben merci.
Je vous en prie.
Et ben, qui tu me conseillerais d'aller voir là pour raconter un peu
le lieu ?
Tu
peux parler un petit peu
de
Juliette.
Juliette ?
Juliette, ouais.
Ouais, d'accord.
Juliette ! Juju !
Tu bonjour.
Veux, tu veux speaker un peu au dictaphone avec
je suis Mehdi. Oh,
salut Mehdi. Je suis pas très à l'aise pour parler des trucs comme
voilà,
ça.
Tranquille.
D'accord. Alors, t'inquiète, on va faire la conversation.
Tu viens d'où, Mehdi ?
Je te présente. Ouais, je me présente d'ailleurs. Je m'appelle Mehdi. Donc, je suis de Radio Libertaire et okay. Je suis en train de faire une émission qui va passer mardi soir
okay.
De 20h30 à 22h30.
Ouais.
Et donc, je suis en train. Voilà, je viens voir Place des Fêtes. J'habite à côté, à Ménilmontant. Et voilà, je viens voir un peu ce qui se passe ici. Donc, j'interroge les gens. Ceux
ouais,
qui
j'entends et c'est cool, mais je suis plutôt timide et pas très d'accord. À l'aise pour discuter.
Ok, bah, y a pas de problème.
Voilà.
Alors, du coup, toi, t'es là depuis quand ?
Je suis là à la cabane ou avec les gilets jaunes?
À la cabane, ouais.
À la cabane, bah, j'ai participé, enfin, je faisais partie de ceux qu'on construit, qu'on clouait les planches ensemble et qui les ont apportés ici.
D'accord.
Donc, ça fait depuis une semaine aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà.
Et toi, t'étais à l'AG de Belleville aussi?
Ouais, alors, la première, j'ai eu du mal à les trouver, l'AG de Belleville, parce qu'ils indiquaient pas le bon endroit sur Facebook. Et je l'ai trouvé deux jours avant de commencer à cabane. Donc,
d'accord.
Je les ai trouvés. Ils m'ont parlé de ce projet et je me suis directement
placée. Mais c'était où, l'AG de Belleville? C'était au Belvédère ou c'était où? C'était...
Non, justement, ils indiquaient le Belvédère, mais c'était pas le Belvédère. C'est dans un bar rue de Belleville, c'est à l'Impondérable.
D'accord. Et là, il y avait du monde ou il y avait...
Ouais, il y a du monde, ouais, il y a un peu de monde.
Il y avait 30, 40, 50, 60, tu sais pas trop.
40, 50 personnes.
Des gens du quartier, quoi. Il y avait gens que tu connaissais?
Non. Mais je suis pas parisienne.
D'accord.
D'origine, ça fait un an que je suis là.
Ah, ok,
donc,
d'accord.
Mais non, mais il y a personne que je connais, ni en manif, ni.
Ok.
Sauf les gens qui manifestent avec moi et que j'ai rapporté, mais je croise pas de gens que je connais.
Mais toi, dans la vie civile, t'es étudiante ou t'es là?
Je suis au chômage là, mais du coup, je suis salariée. Enfin, je travaille, je suis dans le monde actif.
D'accord, ok. D'accord, bah c'est cool. Et du coup, tu participes, il y a des activités auxquelles tu participes ici, genre, je sais pas moi. Effectivement, il y avait monté la cabane, construire la cabane, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs?
Du coup, là, on est un petit groupe où on va essayer de filmer un peu ce qui se passe pour permettre aussi aux habitants qui nous aident et qui deviennent actifs dans la vie de la cabane, de voir leurs accomplissements, de voir ce qu'ils ont fait. Et puis, pourquoi pas que ça soit aussi une boîte de communication avec l'extérieur. Ça, on va voir encore si on devient notre propre média.
D'accord. Tu te sens me présenter un peu la cabane, comment elle fonctionne?
Comment elle fonctionne?
Si on passe devant, qu'est-ce qu'on ne voit pas tout de suite que vous savez qu'il y a et que ça a été construit laborieusement?
Je peux te parler du toit en fait.
Allez,
le toit, du coup, moi j'ai participé à.
Alors faut que tu sais qu'on est à la radio, du coup il fait le maximum visuel possible, quoi. Bien décrire.
Alors le toit, c'est une bâche tendue entre deux bouts de bois et après qui sont tendues avec des cordes sur les bâtiments qu'il y a autour. Donc ça nous permet de nous protéger de la pluie. Ça a été très efficace hier avec les premières pluies que la cabane a vécues.
Ouais.
Et ce qui est cool, c'est que c'est un peu comme une voile de bateau parce que ça bouge avec le vent et donc ça se détruit pas et ça met pas tout par terre. Donc on est assez content de notre concept.
D'accord, c'est cool. Ouais.
Voilà.
Donc effectivement, c'est une bâche bleue entre un container et la fameuse entrée du parking, c'est ça?
Non.
Et on m'a dit que c'était une entrée de parking ici.
Ah, peut-être fut un temps, mais je crois pas. Hein. Ça, c'est la pyramide. Je sais qu'il y a des... il y avait des gens qui sont à la rue qui vivaient dedans à un moment, mais plus maintenant.
D'accord.
Et donc là, on a nettoyé un peu à l'intérieur. Apparemment, aujourd'hui, enfin, c'est pas moi, je dis on, mais l'équipe.
À l'intérieur, il y a des gens qui vivent.
Il y avait une tente et des affaires, mais
d'accord.
Du coup, c'était plus occupé maintenant.
D'accord. Ok. Et il y a beaucoup de gens qui reviennent ou qui font que passer. C'est quoi le trafic par ici?
Ça dépend des jours. Il y a des jours, il y a le marché, il y a des jours. Parce qu'on n'est pas directement visible depuis la sortie du métro, du coup c'est un peu plus à nous d'aller à la rencontre des gens, mais après il y a aussi des gens qui viennent nous voir directement, et surtout le soir il y a un peu plus de monde qui passe le soir quand nous aussi on est un peu plus nombreux et qu'il y a le feu, etc. Mais sinon toute la journée il y a un peu de gens qui passent, c'est très cool. Parfois des gens qui soutiennent le mouvement, parfois des gens qui soutiennent pas du tout le mouvement, mais ça crée de la discussion et c'est exactement pour ça qu'on est là. Enfin, c'est pour être un lieu de politique, enfin de politique, de discussion et d'échange d'idées. Et puis,
pourquoi pas de politique?
Pas que, mais parce que ça braque beaucoup de monde. Moi, je pense que. Moi j'ai vu des interviews, par exemple des gens de Commercy, ils veulent pas dire que ce qu'ils font c'est de la politique. Pour eux, c'est pas ça. Pour eux, ils discutent de. Ouais, je pourrais pas reprendre leurs mots, etc.
Mais
ils discutent d'idées, ils discutent. Mais la politique, ça a été trop sali par les hommes politiques, en fait.
Ouais.
Et on veut pas être associé aux hommes politiques.
D'accord.
Mais pour moi, ma vision des choses, c'est que oui, si qu'on fait, c'est de la politique. On veut changer le système démocratique. On veut un système démocratique. On veut la justice, enfin, l'égalité fiscale. On veut de la solidarité dans le pays. Enfin, c'est de la politique pour moi.
Qu'est-ce qui te touche, toi, là-dedans, dans ce mouvement?
Qu'il y ait des gens qui n'aient pas de quoi vivre décemment alors qu'ils travaillent toute la semaine.
Ouais.
Que moi, personnellement, j'ai eu plus de chance avec... Mes origines sociales ne sont pas très bourgeoises, mais j'ai toujours eu de quoi pour manger facilement. Et mes parents aussi, on a pu partir en vacances. J'ai pu faire des études et j'ai pu trouver du travail après mes études et vivre décemment. Et ça me rend ouf que tout le monde n'ait pas ça.
D'accord. Ok.
Et ça me rend ouf que tout le monde ne sait pas ça. Après, il y a plein d'autres trucs. Après, il y a nos élus qui sont corrompus, qui sont délinquants.
Ouais.
Après, il y a les problèmes d'écologie. Après, il y a énormément de choses. Mais ce qui m'a vraiment fait aller dans la rue la première fois, c'est la misère des gens.
Ouais. D'accord. Bon, ok. Mais moi, je vais continuer ma balade un peu. Merci beaucoup. Tu vois, quand même.
Oui, finalement, j'ai
réussi à parler. Alors, par qui je continue? Est-ce que tu as... Parce que là, en fait, au fur et à mesure, je demande à une personne de me présenter une autre personne. Et c'est une sorte de recommandation. Donc, il y a Garance qui m'a envoyé vers une autre personne, puis vers une autre. Et donc, du coup...
T'as parlé à Baker?
Baker.
Non, il ne veut pas parler, Baker. Okay, il vient de me dire qu'il ne veut pas parler.
Il ne veut pas parler, d'accord.
Il y a Pierre, il faut vraiment... Ouais, c'était Pierre, un gros moteur.
C'est l'architecte de la cabane, entre autres.
Ouais. Allez, bah,
on
y va.
On montrera le plan. Je vais te montrer la photo du plan sur lequel on est parti. Tu vas halluciner.
D'accord.
Je vais te montrer ça.
Ok, alors c'est qui?
C'est lui. Pierre. Salut.
Bonjour. Bonjour, Pierre. Donc, je suis Mehdi, je suis de Radio Libertaire. Et donc, je suis en train de faire...
Je suis en train d'enregistrer.
Ça t'embête de parler?
Mais je parle pas bien, moi.
Ouais, t'inquiète pas, on va...
Bon, vas-y, on va discuter, on va échanger. C'est bien qu'il n'y ait pas d'image, ça, c'est cool. Ça me met plus à l'aise, déjà. Voilà.
Bah, pourquoi t'es là?
Je suis là parce que... Pourquoi je suis là? Bah, parce que c'était nécessaire de sortir du schéma manifestation et d'ouvrir quelque chose de plus permanent et des lieux de vie, voilà, gilets jaunes, quoi. Voilà.
D'accord. Et donc toi, tu as choisi d'aider comment, du coup? Comment tu participes à l'entraide générale?
Ouais, écoute, on se répartit les tâches et je fais ce que je suis en mesure de faire. Là, par exemple, j'ai pour projet de protéger de la pluie ce week-end parce qu'il y a le mauvais temps qui revient et donc de faire une grande bâche. Voilà, pour couvrir une partie de la place et héberger l'inauguration, le banquet de dimanche là, voilà.
D'accord.
Voilà,
c'est dimanche, il y a un énorme banquet apparemment.
Très concret comme ça, voilà.
D'accord. Alors on m'a soufflé, hein, j'ai des sources, que tu étais l'architecte de la cabane.
Regarde le plan.
Ah oui, alors quand même, ouais.
Pas mal.
Bon. Non, mais écoute, on a fait de la récup dans le quartier, on a récupéré beaucoup de matos et avec, on a essayé de se débrouiller, donc à base de palettes, de vieilles portes déglinguées, de mobilier, voilà, tout ça trouvé dans la rue et on a essayé de concocter avec ça un petit espace semi-fermé, semi-couvert et... Et voilà, c'est fait de briques et de broc, mais ça tient pour l'instant, ça va faire une semaine que ça tient. Donc,
c'est marrant, d'habitude on parle de lieux semi-ouverts et là toi tu parles de lieux semi-fermés.
Oui, semi-ouvert, voilà, semi.
Mais pourquoi t'as pensé d'abord à semi-fermé?
Parce qu'on voulait une cabane plus construite à la base.
Voilà, oui, non, c'est... voilà, exactement.
On voulait un truc
exactement.
Plus construit, quoi, pas une bâche et deux palettes, quoi, tu vois.
D'accord.
Voilà, on voulait faire un truc un peu isolé.
Du vent, parce que c'est une place venteuse, très venteuse.
Voilà. Et là, on a pu voir, là ce matin, c'est moi qui ai ouvert la cabane avec un autre
avec
gars.
Joseph.
Voilà. Et y a tout. Enfin bon, tout était inondé, quoi. Donc ouais. C'est ça que je veux dire quand je dis semi-fermé.
Ok, d'accord. Donc toi, tu étais à l'AG de Belleville, c'est ça ou...
On s'est rencontré un petit groupe à l'AG de Belleville. C'était à la base un groupe de travail et puis c'est devenu...
Tu peux me raconter un peu comment ça s'est constitué, comment...
Bah alors il y avait l'exemple qui avait été donné par Commercy, enfin l'appel de Commercy à ouvrir des maisons du peuple. Qu'on voulait Saint-Nazaire, ouais. C'était Saint-Nazaire.
Qui a construit d'accord. La première maison
oui,
du peuple. Mais on les a rencontrés à Commercy et ils ont appelé tout le monde à construire faire des maisons du peuple. Et donc, on voulait faire une maison du top peuple ici, mais avant de faire la maison du peuple, on a fait une cabane pour mieux se connaître. Et voilà.
Donc, Commercio Saint-Nazaire, bref, apparemment plutôt Saint-Nazaire. Et donc, on a cherché à mettre en application cet appel-là. À la base, il y avait l'idée de trouver un lieu déjà existant. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, c'était plus simple. Enfin, qu'il y avait ce lieu, la place des fêtes dans le quartier, qui était un lieu au cœur d'un quartier populaire, déjà avec déjà beaucoup d'associations qui travaillent, donc beaucoup de d'aide possible en cas de d'investissement de la place.
D'accord.
On est toujours
mauvais aux endroits par rapport à la fumée d'un bras zéro. Hein. Je sais pas si t'as remarqué.
Et du coup voilà, on a bifurqué de ouvrir un lieu vers une cabane,
Ok, cool. Et donc du coup.
Et donc on l'a appelé la cabane et pas la maison du peuple, puisque pour l'instant c'est assez modeste, mais.
D'accord. Écoute, moi là je suis hyper intéressé parce que je sens qu'il y a une sorte de discussion un peu politique là qui est en train de se faire là.
Ouais.
Il y en a beaucoup comme ça, des discussions qui s'improvisent sur la politique, sur la vie publique, sur la manière dont on vit, etc., sur les conditions de vie.
Ouais, ben c'est des discussions politiques qui peuvent.
Les 10 minutes,
Ouais, on a tout le temps.
Il y en a parfois simultanées et tout.
Mais voilà, mais l'idée, c'est de faire naître les conditions politiques des conditions de vie, des gens et pas être dans cette espèce de. On privilégie le contact direct à la médiation par l'AG qu'on a pu. Qu'on a connu. Qu'on connaît dans les AG, avec une rencontre qui se fait dans un espace convivial et qui permet à des gens très différents d'échanger et de trouver des
formes d'entente. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer comme ça quand il y a des grosses AG ou quand. Est-ce que ça crée une vraie différence?
En tout cas, nous, on a vu que. Que la parole circulait beaucoup mieux dès qu'on réduisait un peu les effectifs. Bon, c'est pas un scoop, ce que je dis, mais dès qu'on se met en petits groupes de travail, qu'on partage une bouffe, on a été hébergé chez une personne du groupe, et c'est ces environnements-là qui sont favorables à ce que chacun puisse trouver sa place et là, du coup, c'est des petits, comme tu vois, c'est des petits groupes de discussion un peu éparpillés autour du lieu, et c'est là que la parole se libère, quoi. Et que, voilà.
Du coup, il y a aussi un sujet qui m'intéresse, c'est dans l'entraide et dans l'autogestion, il y a toujours un peu des règles tacites qui se mettent en place, des trucs qu'on ne dit pas trop, mais c'est comme ça que ça marche. Et alors, est-ce que c'est des règles ou est-ce que c'est des comportements ou est-ce que c'est des attitudes? Alors du coup, vous avez votre directrice de communication.
Donc, bienveillance et solidarité, c'est ça qu'on va dire. Moi je vois pas en fait règle tacite. C'est le savoir vivre, humain de base, ce qui veut dire un peu tout et rien, mais se respecter. Il y a certaines limites qui sont les limites dans les rapports humains en fait. On les a pas formulées et superposées à ce qui existe déjà dans les rapports entre les.
Mais par exemple, un mec coupe systématiquement la parole à une meuf quand elle s'exprime, est-ce que vous laissez faire ça ou est-ce que vous dites que c'est un truc normal ou est-ce que c'est au contraire un truc pas normal ou est-ce que ça dépend des gens qui sont là ou comment ça se passe dans ces cas-là?
Écoute, ça, on n'a pas trop eu affaire à ça parce qu'il y a des, dans le groupe, il y a des gens qui savent réagir à ça de façon automatique, quoi, et je pense qu'on fait attention. On fait attention à ça, mais c'est aussi peut-être une culture qu'on amène avec nous, individuelle. Et l'addition de tout ça fait qu'on est assez vigilant. L'addition de toutes ces cultures individuelles, militantes ou autres, ou féministes, ou voilà, et bah ça s'additionne et ça, on laisse pas passer ce genre de choses. Enfin, je sais pas.
D'accord. Du coup, est-ce
voilà,
que ça
si
peut
c'est trop ostentatoire, après t'as des formes très subtiles comme ça d'infériorisation ou de bon voilà qui peuvent enfin qui disparaissent pas comme ça, mais après si ça se remarque que c'est trop gros dans le cadre d'une réunion quoi. Bon là du coup il y a pas d'AG, c'est juste une petite réunion logistique.
Oui, mais du coup je vois bien que quand même il y a
on
des
fait
gens
attention
sont...
on essaie de faire attention
je vois bien qu'il y a des gens qui sont là, qui se retroussent un peu les manches, qui aident, ouais, qui tendent la main pour refiler un coup de main, ouais, et puis ouais, ça a l'air d'être plutôt détendu et tout le monde met la main à la pâte sans qu'il y ait vraiment d'ordre donné de qui que
oui
ce soit quoi.
Oui, oui, enfin, oui.
C'est
oui
l'impression que j'aime.
Oui, oui, c'est ça, c'est qu'on n'est pas dans un. J'entendais quelqu'un utiliser cette expression, mais dans un formalisme démocratique, c'est-à-dire qu'on n'attend pas, enfin on va pas sanctionner toutes les décisions. De fait, on n'a pas de, comme je le disais, d'AG, d'institutions comme ça qui valident les trucs. Mais voilà, on ne cherche pas à tout faire valider, à tout faire voter. Ouais. Et on laisse quand même une. Enfin, voilà, l'idée c'est que chacun vient avec son énergie. Avec, il y a une liberté dans individuelle, des initiatives individuelles, ouais, et en fait ça se fait de façon assez informelle, c'est-à-dire que, moi, ce que je disais à un type, par exemple le type qui a repeint toute la cabane en jaune, bon, il y avait des gens qui avaient d'autres idées, c'est vrai qu'elle faisait un peu, parce qu'il y avait plein de couleurs, elle faisait un peu voilà, pas unifié, mais bon, il y avait des gens à qui ça pouvait plaire par ailleurs. Et bon, le type s'est pointé, il avait son truc, il est arrivé avec son pot de peinture, veste comment, bleu de travail, il a tout repeint sans demander l'avis à personne. Bon, il se trouve qu'au final, ça a un effet plutôt cool, ça a un bon rendu, mais voilà, il n'a pas pris la peine de un peu prendre la température, d'en discuter un peu avec les gens qui étaient. Parce que c'était un type que ni vu, ni d'Ève, ni d'Adam, donc voilà. Mais bon, après, c'est cool que...
Une
c'est
contribution cool que... sans connaître les règles. C'est comme si c'était intériorisé, en fait.
Non, mais ces contributions, c'est pas une histoire de règles, mais c'est une histoire de simplement en parler. Si on est nouveau, apprendre à connaître les gens. Ouais. Juste apprendre à se connaître si tu viens pour la première fois. Et si tu as envie de prendre une initiative, en parler en amont un petit peu, quoi. Mais ça peut être à deux, trois. C'est pas obligé d'en parler à chaque personne individuellement du groupe qui fait tourner la cabale, là. Et voilà, l'idée, c'est que tu vois si ça plaît, si tu as des grosses objections. Après, on a des groupes de discussion sur les réseaux, etc., sur lesquels on peut parler vraiment à tous les gens qui participent à la vie de la cabane.
Bonjour, monsieur. Salut. Excusez-moi, je vous interromps. Tu
l'as interviewé, lui ?
Non, pas encore.
Ah bah, je ne sais pas si je suis la personne la plus pertinente. Non.
Alors, ça tombe bien.
Tu prends le relais. Mais attends, il voulait me dire un truc.
Oui, exactement. T'as vu les palettes qu'il y a derrière ?
Alors, voilà, on a été interrompu, on était dans une grande conversation, et puis au fur et à mesure de la soirée, il y a eu des gens qui n'ont pas trop souhaité que je les interviewe. Pourquoi ? Parce que ils voulaient pas se mettre en avant la plupart du temps. Ils considéraient que le rôle qu'ils jouaient était aussi important que le rôle de n'importe quelle autre personne qui était dans le groupe et voulaient pas se mettre particulièrement, enfin plus en avant. Il y a un jeune homme qui lui considérait carrément que étant d'une éducation plutôt bourgeoise, ayant fait une école de commerce, il avait la maîtrise du verbe et donc il considérait que lui donner un micro c'était déjà amener les gens dans une sorte de piège, voilà, c'est comme ça qu'il présentait les choses. Alors de fait, il n'a pas voulu que je l'interviewe et ça a permis de laisser la place à pas mal de gens. Comme vous voyez dans les entretiens que j'ai avec les discussions que j'ai avec les personnes que j'ai rencontrées sur la place des fêtes à Belleville le vendredi dernier, était plus sur un peu le contexte, sur comment ça s'organise, le cadre et tout. Il y a souvent dans cette ambiance-là des notions d'organisation un peu, des notions de texte fondateur. Il y a deux petites choses là, qui sont passées dans les précédentes interviews. On a parlé de Elisabeth Dmitrieff, qui est donc une jeune russe qui est née en 1851 et qui a participé à la commune de manière très très intense, hein, puisqu'elle était jusqu'au dernier rempart le 22 mai
1871, elle a réussi à s'échapper et elle s'est retrouvée en Russie en octobre 71. Donc, elle a vraiment réussi à mener la bataille de bout en bout de la Commune de Paris. Elle était aussi c'est elle qui a financé en fait la cause du peuple. Alors, faut bien voir hein, que c'est à 20 ans qu'elle a financé la cause du peuple. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une jeune fille d'un soldat tsariste. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a voulu prendre son indépendance financière. Elle a fait un mariage blanc. Ça lui a permis d'avoir pas mal d'argent et elle a réinvesti cet argent, notamment inspiré par un bouquin de Vnichnovsky. Je vais retrouver le nom tout à l'heure, qui s'appelle Que faire ou Comment faire, qui est aussi un bouquin qui lance sur l'indépendance et l'autonomie. Et donc voilà, Elisabeth Dmitrieff, donc une révolutionnaire, une communarde qui avait le secteur de soins aux blessés et du soin aux soldats, aux communards pendant la Commune de Paris. Un autre petit passage de notre éducateur hein, qui parlait de cette loi de 1973, Giscard Pompidou. Alors, déjà rien qu'à entendre et la manière dont c'est amené, ça sent un peu un truc un peu le soufre. Hein, on se demande si c'est du vrai, du faux. Bon, je vous laisserai chercher et vous faire votre propre idée sur Internet. Globalement, faut vous dire que c'est un des fers de lance, ou en tout cas c'est un des sujets sur lequel Étienne Chouard parle beaucoup. Voilà, ça c'est les deux éléments. Tant qu'on est au texte fondateur, on va peut-être écouter un des premiers textes qui ont lancé une sorte de vision un peu plus fédérale ou nationale, ou un regroupement des Gilets jaunes. Qui est donc une des premières vidéos des Gilets jaunes de Commercy.
À des assemblées populaires partout, refusant la récupération, vive la démocratie directe, pas besoin de représentants régionaux. Depuis près de deux semaines, le mouvement des Gilets jaunes a mis des centaines de milliers de personnes dans les rues partout en France, souvent pour la première fois. Le prix du carburant a été la goutte de gasoil qui a mis le feu à la plaine. La souffrance, le ras-le-bol et l'injustice n'ont jamais été aussi répandus. Maintenant, partout dans le pays, des centaines de groupes locaux s'organisent entre eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois.
Ici à Commercy en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires, quotidiennes, où chaque personne participe à égalité. Nous avons organisé des blocages de la ville, des stations-service et des barrages filtrants. Dans la foulée, nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous y retrouvons tous les jours pour organiser, décider des prochaines actions, dialoguer avec les gens et accueillir celles et ceux qui nous rejoignent dans le mouvement. Nous organisons aussi des soupes solidaires pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître en toute égalité. Mais voilà que le gouvernement et certaines franges du mouvement nous proposent de nommer des représentants par région, c'est-à-dire quelques personnes qui deviendraient les seuls interlocuteurs du pouvoir public et résumeraient notre diversité. Mais nous ne voulons pas de représentants qui finiraient forcément par parler à notre place.
À quoi bon ? À Commercy, une délégation ponctuelle a rencontré le sous-préfet dans les grandes villes, d'autres ont rencontré directement le préfet. Ceux-ci font déjà remonter notre colère et nos revendications. Ils savent déjà qu'on est déterminé à en finir avec ce président haï, ce gouvernement détestable et le système pourri qu'il incarne. Et c'est bien ça qui fait peur au gouvernement. Car il sait que s'il commence à céder sur les taxes et sur les carburants, il devra aussi reculer sur les retraites, les chômeurs, le statut de fonctionnaire et tout le reste. Il sait aussi très bien qu'il risque d'intensifier un mouvement généralisé contre le système.
Ce n'est pas pour mieux comprendre notre colère et nos revendications que le gouvernement veut des représentants. C'est pour nous encadrer et nous enterrer. Comme avec les directions syndicales, ils cherchent des intermédiaires, des gens avec qui ils pourraient négocier, sur qui ils pourraient mettre la pression pour apaiser l'éruption, des gens qu'ils pourraient ensuite récupérer et pousser à diviser le mouvement pour l'enterrer.
Mais c'est sans compter sur la force et l'intelligence de notre mouvement. C'est sans compter qu'on est bien en train de réfléchir, de s'organiser, de faire évoluer nos actions, qui leur foutent tellement la trouille et d'amplifier le mouvement. Et puis surtout, c'est sans compter qu'il y a des choses très importantes, que partout le mouvement des Gilets jaunes réclame sous diverses formes, bien au-delà du pouvoir d'achat. Cette chose, c'est le pouvoir au peuple, c'est le peuple pour le peuple. C'est un système nouveau où ceux qui ne sont rien, comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l'argent. C'est l'égalité, c'est la justice, c'est la liberté. Voilà ce que nous voulons, à part et ça part de la base.
Si on nomme des représentants et des porte-paroles, ça finira par nous rendre passifs. Pire, on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas, comme les crapules qui nous dirigent. Ces soi-disant représentants du peuple qui s'en mettent plein des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent les intérêts des ultra-riches. Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n'est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s'il semble honnête. Qu'ils nous écoutent tous ou qu'ils n'écoutent personne.
Depuis Commercy, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires qui fonctionnent en assemblée générale régulière. Des endroits où la parole se libère, où on ose s'exprimer, s'entraîner, s'entraider. Si délégué il doit y avoir, c'est au niveau de chaque comité populaire local de Gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple, avec les mandats impératifs, révocables et tournants, avec la transparence, avec la confiance.
Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de Gilets jaunes se dotent d'une cabane comme à Commercy, ou d'une maison du peuple comme à Saint-Nazaire, bref, d'un lieu de ralliement et d'organisation. Et qu'ils se coordonnent entre eux, au niveau local et départemental, en toute égalité. C'est comme ça qu'on va gagner, parce que ça, là-haut, ils n'ont pas l'habitude de le gérer. Et ça leur fait très peur. Nous ne nous laisserons pas diriger. Nous ne nous laisserons pas diviser et récupérer. Non aux représentants et aux porte-paroles autoproclamés. Reprenons le pouvoir sur nos vies. Vive les Gilets jaunes dans leur diversité. Vive le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple.
Voilà, donc ça c'était le premier appel. Peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Et sans trop tarder, on va commencer par continuer par une jeune femme que j'ai croisée donc sur la place des fêtes vendredi dernier, en haut de la rue de Belleville, où ils ont monté une cabane des Gilets jaunes et qui vont tenir en permanence jusqu'à la fin. Enfin, je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, c'est en cours et c'est la première cabane Gilets jaunes de Paris.
Un jeune de la place, il est trop cool.
Alors d'abord, madame, ouais. Comment s'appelle madame ?
Amparo.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes du quartier ?
Ouais, bah ouais, de en bas moi, de l'autre côté, vers Jaurès.
D'accord, ok.
Voilà.
Et donc, Garance me dit que vous êtes de l'AG de Belleville, c'est ça ?
Ouais.
Vous étiez à la première réunion qui a décidé de la cabane et...
Oui, j'ai été à celle-là. Je n'ai pas à toutes les réunions parce que je n'y vais pas tout le temps, mais d'accord. Celle qui a décidé de la cabane, oui.
Vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est passé parce que
non, l'impression... moi je ne suis pas allée à la réunion cabane-cabane, je n'étais pas dans le groupe cabane-cabane.
Oui, mais là tout le monde me parle...
Je viens
à toi tout de suite après, je finis avec madame.
Finis d'abord avec madame et on verra
plus tard. Après monsieur.
Non,
moi je suis arrivée, ils avaient déjà monté un beau paquet.
Non, mais en fait, cette réunion à Belleville dans un bar, c'est ça ?
Ouais, maintenant, avant c'était au Belvédère, maintenant c'est au bar.
D'accord. Et
l'impondérable au 320 rue des Pyrénées.
Voilà.
directrice de communication, ah, promo.
Il
n'y
a pas de directrice déjà, ça n'existe pas là.
Non, mais racontez-moi, parce que ça a l'air d'être la légende de cet endroit-là, quoi. Ça a l'air de... J'ai l'impression que c'est à cet endroit-là, à ce moment-là, qu'est née la flamme de cette cabane.
La vérité, c'est que ça a commencé à tourner un petit peu en bavassage.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, par exemple, entre autres, Garance, elle a proposé cette initiative-là. Et il y a eu aussi, il y avait l'appel de Commercy qui avait dit que c'était bien d'en faire. Et puis voilà, ils s'en sont saisis et petit à petit, voilà. Et c'est vrai que c'est une idée qui permet de rencontrer les gens. Et puis,
d'accord.
Que depuis, ça va faire une semaine, ouais. Ouais. Ça fait une semaine et bon, voilà, c'est bien. Il y a plein de gens. Il y a Michel là, qui était là le premier soir. Voilà, qui a sa tente derrière et qui maintenant fait partie intégrante du groupe, qui surveille, qui est très content,
d'accord,
je crois.
Ouais. Vous voulez dire que Michel, c'était un SDF?
Oui, on peut dire.
Il a la cabane, c'est son annexe.
Voilà, il surveille la cabane. En fait, il a pris la responsabilité de la cabane. D'accord. Et même les jeunes qui font le feu, il leur dit ne mettez pas de plastique, alors que bon, voilà, le premier soir, il a jeté ses canettes. Et depuis, voilà, on progresse. Voilà, et puis je crois qu'il est content d'avoir trouvé une sorte de famille, peut-être.
D'accord. Voilà. Et, du coup, vous le connaissiez avant?
Non, absolument pas. Non, il est venu le premier soir parce qu'il a vu de la lumière en quelque sorte.
Du coup, qu'est-ce qui vous amène ici, vous?
Moi, je sais pas, j'attends la fin de ce système de merde, voilà, en gros.
D'accord.
Enfin, je l'attends pas, j'essaye de la provoquer plutôt.
Ouais, bravo. Yeah.
Voilà. Mais alors, comment vous essayez de provoquer?
Comment, voilà, en discutant avec les gens. Moi, j'ai une petite, j'ai un flash pub.
Ah bon?
contre tous les systèmes de contrôle à l'entrée des transports publics.
Ah oui?
Donc, d'accord. Moi, je suis pour la gratuité des transports publics. Uh-huh. Et que toutes ces machines, j'ai commencé un peu à...
Sabotage!
Voilà! Et je pense surtout que toutes ces machines, elles rapportent à quelqu'un et qu'il y a derrière, en allant chercher un peu, il semblerait que ce soit Monsieur Bolloré. En tous les cas, c'est l'entreprise Bolloré qui pose toutes ces machines et qui, pour les gens qui prennent le métro, le train, peut-être que Macron ira faire un jour après sa maraude, il ira peut-être prendre le train à Saint-Lazare où il y a des milliers de gens comme ça. Mm-hmm. Maintenant, il y a des portillons. Voilà. Donc, comme ça, on aura encore plus... de difficultés à rentrer, alors que je pense que ça coûte quelques milliards et que avec ces quelques milliards on pourrait faire la gratuité du transport. Voilà.
Ok.
Voilà. Donc j'appelle vertement à ce que toutes ces machines soient sabotées. Voilà. Alors vous dites pas
résistance,
bon,
c'est sabotage.
Finalement je m'appelle pas un parent.
Alors, j'ai remarqué un.
Parce que bon, en plus de ça, j'ai un nom.
J'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de femmes dans ce mouvement. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Je ne sais pas, quelle est votre impression là-dessus?
Je ne sais pas, là. Ouais, là, il y a des femmes, oui.
On n'est pas la majorité non plus, hein. Mais il y en a.
Ça, ouais, il y en a pas mal.
Parce que j'avais l'impression que Nuit Debout, c'était un peu masculin.
Je ne sais pas, Nuit Debout, je n'ai pas trop participé, donc je ne saurais pas vous dire. Voilà.
D'accord.
Lui, vous êtes TV Debout, lui. C'était l'intervieweur officiel de TV Debout.
Moi, j'ai vu une ou deux assemblées, là, bon, voilà. De toute façon, je pense que c'est aussi des prolongements, hein, malgré tout. Je ne dis pas que c'est de petit à petit. J'ai même été allé au moment où il y a eu les indignés. On n'a pas duré longtemps, mais on a fait un peu d'indignés.
Vous étiez où, à Bastille?
Oui, les premières fois, on s'est fait nasser à l'air libre. Ouais. Voilà.
Vous avez connu David à l'époque?
Je ne sais pas comment il s'appelait. Je ne me souviens plus, parce que moi, j'habitais pas. En fait, j'étais au moment où je revenais en France.
D'accord.
Donc, voilà.
Ok.
Voilà. Donc,
d'accord, parfait.
Voilà, donc vous voyez, en tous les cas, c'est sûr que là, on ne peut plus continuer avec ce système. Là, il faut tout faire pour arrêter. Et puis pour une fois, si on gagne, ce serait bien quand même.
Voilà. Comment vous pensez qu'on va gagner?
Il faut continuer, il faut élargir. Et puis bon, je pense qu'on sera obligé d'aller à l'affrontement parce que je pense pas qu'ils vont lâcher. Voilà.
Ouais. Donc, vous seriez prêt à l'affrontement?
Oui, on va pas avoir d'alternative. Hein. Vous voyez bien qu'ils en laissent pas. Hein.
Ouais.
Donc voilà, je pense que va falloir le construire aussi de façon à ce qu'il soit le plus efficace possible et le plus rapide possible. Mais on l'a jamais vu, hein. On n'a jamais vu qu'il lâche le pouvoir tout seul. Malheureusement.
Si, il y a eu des révolutions où ça s'est passé tout seul.
Tout seul? Lesquelles?
La révolution des œillets en Portugal.
C'est pas exactement tout seul quand même. Hein.
Les gens sont descendus dans la rue, mais.
Les gens sont descendus dans la rue avec les militaires qui ont appelé. Hein. Quand même, c'est une grande différence. Hein. Les militaires qui ont appelé quand même et qui ont défendu. Et puis, deux ans après, les militaires, par exemple, tous ceux qui se sont retrouvés en tôle, et ça a été sévère. Hein. Ils n'ont pas laissé tout à fait tout seul. Ils ont laissé tout seul parce qu'ils se sont retrouvés tout seuls. et que les militaires les ont plus soutenus. Hein. Mais la dictature, elle n'est pas tombée toute seule. Hein. Ça, mais, c'est une légende, ça, quand même.
Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que si on convainc tellement de monde ouais. que le pouvoir est seul, ouais. finalement, la société peut changer sans violence.
Ouais, tout le monde veut l'appellerait de ses voeux, bien sûr. Ce serait plus facile de rester dans son lit et qu'on soit tous dans notre lit à dire arrêtez, arrêtez, mais vous voyez bien que ça ne se fait pas. Parce qu'il y a trop d'enjeux pour eux, comme pour nous. Hein. Mmh. Et bon, pour l'instant, ils n'ont pas l'intention. Vous voyez bien que, quand même.
Qu'est-ce que...
Question armement, ils n'ont pas l'air de baisser la garde. Hein. Ils en produisent, ils en inventent des toujours plus sophistiqués. Ça rapporte trop d'argent.
Du coup, qu'est-ce qui, immédiatement, vous donnerait le signal que ils ont pris conscience, ils ont compris?
Ah ben là, mais qu'ils ont compris quoi?
Qu'ils ont compris que fallait...
Qu'il faut partir
Non, mais qu'ils ont compris et que, du coup, votre lutte a porté ses fruits.
Mais ils ont compris depuis le début, eux. Ils ont compris depuis le début. Ils ne sont pas au service du capitalisme parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont compris depuis le début. Sans doute, peut-être, ils ne s'attendaient pas à un mouvement comme ça et qu'ils tiennent, etc. Parce que, de fait, eh ben, il a pris des formes qui n'étaient pas connues jusque-là ou qu'on ne connaissait plus, qui n'étaient pas dirigées par ce qu'ils appellent maintenant, là, j'ai découvert ça, que ça s'appelle les corps intermédiaires, les syndicats et les partis politiques. Ça veut dire quoi? Des courroies qui servent à amortir les chocs. Voilà, là, c'est quelque chose qui leur a échappé. Mais bon, voilà, ils ont repris en main, hein, malgré tout. Mais ils ont très bien compris. Ils ont compris quoi? Ils n'ont pas compris qu'il y a des millions de gens qui sont en train de crever la dalle, qu'il y a de plus en plus de gens dans la rue. Ils le voient bien. Enfin, ils le voient peut-être pas, parce qu'ils y passent pas, apparemment. L'auteur. D'autres clowns là à faire sa maraude là. Bon,
et voilà. Imaginons qu'il y a la lumière qui descend, qui leur éclaircit le cerveau. Oui. Et ce serait quoi le premier acte?
De quoi? Qu'ils s'en aillent?
Par exemple?
Bah oui, 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 ce serait très bien qu'ils démissionnent, ce serait parfait. Ce serait déjà un premier signe.
Sans rien organiser.
Ah, qu'est-ce qu'ils organisent leur suite? C'est pas eux qui vont organiser leur suite. Hein. Alors là, c'est hors de question que ce soit eux qui organisent leur succession.
D'accord.
Bah oui, c'est... Je sais pas, moi.
Je vous pose la question.
Ouais, ouais, non. Bah, non,
pour moi. Qui part
Bah, qui part déjà, qui ce part. Serait très bien. Et que ce soit nous qui soyons tenus, ouais, de nous organiser, en effet. Ouais. Et ça, c'est un travail. C'est vrai, je pense qu'il y a une paresse aussi intellectuelle de notre part, de pas vouloir se pencher dans ce mouvement. Là, par contre, il y en a hein, des gens qui réfléchissent, des tas de gens qui se disent « Ah ben non, on devait faire comme ci, on devait faire comme ça ». Bon, personne n'est vraiment très d'accord, mais en tous les cas, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à réfléchir.
C'est quoi les débats en ce moment là-dessus sur,
Par exemple, Rick Parikh. Hein. Voilà, ouais. Rick Parikh, bon voilà, il y en a beaucoup qui sont pour, il y en a qui sont pas, qui pensent que bon voilà, le Rick, si on ne change pas le système, il ne change pas rien, il change pas grand chose, d'après moi, mais après, bon voilà. Bah, par exemple, mais en tous les cas, c'est une idée pour essayer de changer le fait qu'il y ait des gens qui dirigent sans aucun contrôle. Voilà.
D'accord. Mais là, par exemple, il y avait un de vos camarades là qui disait que il n'y avait pas vraiment de vote, que les décisions, que les gens contribuaient.
Ouais, comme en tous ça, les cas, dans notre assemblée, oui. dans l'assemblée de Belleville, là, il n'y a pas eu de vote.
Ça a l'air d'être une sorte de consensus.
Bah, c'est pas forcément un consensus, c'est que quelqu'un, par exemple, là, bon, je dis Garance parce que c'est notamment elle qui a été vraiment à l'initiative sur la cabane. Eh bien, voilà, elle a rassemblé les gens qui étaient intéressés par faire ça. Et puis, bon, voilà, puis ça s'est fait, quoi. Mmh. Bon, il n'y a pas de... Je ne sais pas si quelqu'un proposait de mettre le feu autour et que peut-être ça ne suffirait pas et qu'il y a des gens qui diraient « Ah ben non, non, on n'est pas d'accord, ça ne peut pas être fait au nom de l'Assemblée ». Mais là, bon, voilà, c'était une des choses qui font partie des idées qui servent à faire avancer, à rencontrer les gens comme on veut le faire. Donc, c'est bien, voilà. Mais bon, il n'y a pas eu un vote exactement pour dire combien de personnes, il y en a un, il y en a deux et tout ça. Après, bon...
Il y a eu un élan et il y a
oui,
des gens
voilà.
qui ont suivi, quoi.
Bah oui, oui, bah parce qu'en plus de ça, ça fait partie des façons de se rencontrer. Puisque en tous les cas, un des une des idées, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait des gens qui, à nouveau, se reparlent. Et ça, c'est vrai que tout le monde le dit. Hein. Mmh. Tous les gens qui participent d'une façon ou d'une autre aux Gilets jaunes, ils disent, bon, moi, je parle avec des gens avec qui, normalement, j'aurais jamais parlé. Moi, la première aussi, hein, sans doute. Hein. Je suis bien obligée d'écouter, d'entendre des choses qui ne me plaisent pas des fois, mais bon, voilà.
C'est le service secret des Gilets jaunes.
Avec le chien. Avec le chien,
c'est pas un chien, c'est un loup.
Ah, encore, oh là là, un loup, par-dessus.
Et c'est quoi les missions, alors ?
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. C'est insupportable.
Mais parce qu'il y a un risque.
Non,
le risque, vous connaissez.
Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin... Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit.
Bon, en fait, moi, quand j'ai entendu cette dame en train de dire, bah ouais, la violence, c'est presque inévitable. Hein. Je me suis senti un peu choqué parce que je vis dans la même culture, société que vous, et du coup je me suis dit c'est peut-être un peu extrême tout ça, enfin voilà. Et puis en même temps, Philippe, là, le technicien qui travaille avec moi et qui est avec moi sur dans les studios, me dit mais Luc Ferry est pas moins violent quoi. Et quand on laisse dire un ancien ministre philosophe de surcroît ce genre de choses, un ancien ministre de l'éducation dire ce genre de choses, tu te dis que, je sais pas, mais peut-être que cette dame a la raison, enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que la violence est inacceptable hein, de part et d'autre. On continue un peu avec madame sur la notion de numérique. Elle avait des propos qui me semblaient être intéressants et que je voulais partager aussi avec vous.
Eh ben, j'ai pas pu avoir les tarifs. Alors, je pense que si je vais sur Internet, j'aurai les tarifs.
En fait, je reprends l'enregistrement. j'avais coupé parce que je pensais qu'on avait terminé, mais là, j'avais éteint le truc. Et du coup, là, tu as commencé à me parler des choses importantes, en fait. Là, tu as commencé à me parler des choses du numérique.
Ouais.
Parce que je te disais que mon émission était plutôt sur le numérique. Mm-hmm. Et tu disais, oh là là, le numérique. Et tu m'as parlé de la Poste.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe à la Poste, là,
à la Poste, celle qui est à Laumière, qui est une grande poste, quand même. Là, ils vont fermer, je pense que ça y est, ils ont commencé à fermer. Ils rouvrent dans 3 mois et il n'y aura que des machines. Il va y avoir, peut-être ils vont garder un guichet quand même, j'imagine. Mais ils m'ont expliqué, ils vont faire que ça, que des machines. Et en fait, ils sont en train de faire ça partout. Il y a une des nanas qui m'a dit ça, une des guichetières, elle a dit, partout, ils sont en train de faire ça. L'autre jour, tu étais à la poste, là, il y a une nana, elle s'est ramenée avec, je sais pas, 50 petits paquets à envoyer. Elle avait déjà sans doute elle-même imprimé les étiquettes code-barre chez elle, parce que maintenant, en plus de ça, t'arrives. Et donc, elle les portait là-bas. Donc, la nana, elle était avec sa petite douchette, là. Elle passait les douchettes, voilà, pour faire partir les colis. Puis, il y en a un, c'est pas passé. Et c'était le même que les autres. Hein.
Ouais.
Elle lui a dit, non, je sais pas, je peux pas vous le prendre, celui-là, parce que ça passe pas. Et la nana, elle a repris. Et t'as pas d'alternative. Si la douchette ne prend pas, la douchette ne prend pas. Et elle est repartie avec son paquet. Je peux pas te dire le détail, parce que c'est comme ça, voilà. Ouais. Tu te dis, la douchette ne prend pas, le paquet part premier. Je sais pas, tu pourrais au moins dire, ils ont laissé une petite porte pour au cas où le système marche pas, pour qu'ils puissent le faire à la main. Non, ça n'est plus possible. Apparemment, hein, tu te dis ça, il y a de quoi devenir fou, quoi.
Mais tu parlais aussi de cette histoire de plaque d'immatriculation pour le...
C'est les... Tu vois les... Comment ça s'appelle, là, les trucs pour... les parcmètres, là.
Ouais.
Les parcmètres, tu regardes sur le truc. Normalement, je sais pas, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait des tarifs, si c'est de nuit ou je sais pas. Là, maintenant, les nouveaux qu'ils ont mis, apparemment, tu ne peux pas... Il n'y a pas écrit... combien ça coûte.
D'accord.
Et donc tu dois mettre ton immatriculation. Et là en fait, parce qu'avec ton immatriculation, sans doute déjà ils peuvent voir si tu es résident, si tu es de Paris, si tu n'es pas de Paris. Et donc il doit y avoir des tarifs, que sans doute si tu vas sur Internet, tu remontes chez toi, et puis tu regardes sur Internet, sans doute tu dois trouver les tarifs, la rue machin, quel tarif c'est. Mais tu vois, c'est plus écrit, tu vois pas écrit, de telle heure à telle heure, c'est payant, de mois d'août c'est gratuit ou je sais pas quoi.
J'ai l'impression, mais c'est un peu diffus, mais peut-être que tu vas me détromper, qu'il y a un peu quelque chose dans cette lutte d'un ras-le-bol d'être mis en boîte, d'être encapsulé dans des données.
Ah ouais, mais moi, en tous les cas, bon, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais je peux te dire que dans beaucoup de gens, en tous les cas, que tu rencontres, et puis c'est généralisé, ce sentiment de dire, mais nous, on peut rien faire, quoi. On veut aller, je sais pas, tu veux envoyer, je te dis, moi, la poste, c'est bon. Envoyer un recommandé, ben non, il faudrait que tu ailles sur Internet. Tiens, acheter un ticket de train, acheter un billet de train pour partir en vacances. Eh ben, il faut que tu ailles le faire sur Internet. Si tu vas dans les quelques guichets qui restent, où tu fais 3 milliards d'heures de queue. Et puis en plus, tu arrives au guichet, le gars, il te dit, ah non, mais ces trains-là, nous, on les vend pas. C'est que des tarifs Internet. Donc toi, tu dois te taper le tarif maximum avec le gars. Tu vois, et tu dis, bah, tu passes 3 heures à chercher un billet de train. C'est normal, ça.
C'est là, c'est le pauvre, du coup, qui paye.
Ah bien sûr, là, qu'est-ce que tu veux, je dis, et puis le gars qui ne sait pas se servir de... J'ai vu dans, je crois que c'était Le Monde de... qui n'est pas un journal recommandable, hein, on est bien d'accord. N'empêche qu'ils ont sorti une étude, je crois que c'est en juillet de l'année dernière, où ils disent, en gros, qu'il y a, si je raconte pas de bêtises, il faudrait retrouver la fracture numérique. C'est eux qu'on parle, tu vois.
Alors donc, en fait, c'est le premier à en parler, c'était Chirac.
Voilà. Bah, depuis ça a dû s'accentuer parce que d'après moi c'est encore pire. Gouffre, hein. Bah ouais, et bah je veux dire, on dit, je crois que c'est quand même près de 18 millions de personnes qui reconnaissent ne pas être à l'aise avec Internet. En tout cas, c'est des chiffres, en gros 20% de la population. Mmh. Et bah tu te dis, t'es à les écoles, les bahuts là, les bulletins, t'as déjà, je sais pas si t'as des enfants. Non,
j'ai pas d'enfant, non.
Peu importe, moi non plus, en vérité. Mais comme je suis la jeunesse, voilà, et ben, ils ont les bulletins et les résultats, les moyennes. Par exemple, tu vois, c'est un truc qui est comme ça,
ouais.
En polygone, étoile, ouais, en étoile, ouais. En toile d'araignée. Donc le parent, il doit comprendre que si ça, son point, il est là, ça veut dire que les autres, ils sont là. Un truc complètement hallucinant, tu vois. Et tu te dis, ben, qui est-ce que c'est adressé à qui, ça?
En fait, ce qui est absurde, ce qui est marrant, c'est qu'avec ce truc-là, ce type de graphique, en fait, plus c'est rond, plus c'est bien.
Oui, bah voilà,
plus mais bon, rond, ça... Plus c'est homogène, plus c'est bien.
Mais bon, ça veut rien dire pour plein de parents. Je te dis, moi, quand je te parle de parents, je ne parle pas de parents ni analphabètes, ni étrangers, ni rien du tout. Je te parle de parents qui ont été à l'école, qui ont même eu le bac ici en France, et qui se retrouvent tout d'un coup avec un truc, avec des gamins qui ont 15 ans. Mmh. Et tu vois, par exemple, qui ont un code, entre autres, hein, il y en a peu sans doute, mais il y a un code... d'accès que pour les parents. Et les parents, tout le monde dit, mais moi, je fais confiance à mes gamins, je vois pas pourquoi je dois aller, s'ils me donnent... Tu vois des trucs, tu te dis, c'est plus possible, quoi. Comment c'est possible que les parents, ils puissent même pas... Salut, hein. Allez, à bientôt. Et bah, tu vois, même ça, c'est... Et là, tu te dis, bah voilà, le fait est, c'est que ce qu'on demande, c'est que les gamins... Je sais pas, Jules Ferry, on leur a appris à lire, à écrire, pour qu'ils aillent... pour qu'ils puissent... travailler dans l'industrie, et là on est en train de les formater chez les petits. Alors on te sort des tas d'études, soi-disant, pas plus de 6 minutes par jour sur les écrans, machin. Ah, les enfants, ils sont de plus en plus sur les écrans. Et puis dans les écoles, qu'est-ce qu'on balance? Des tablettes, des écrans numériques, des machins. Tu dis, ben, ah non, mais il faut arrêter avec ça. Puis sans parler que ça, si on ne fait pas comprendre aux gens que de l'autre côté de leur petite machine comme ça, il y a des mines ailleurs, des pays qui sont saccagés. Alors,
pas celui-là, parce que celui-là, c'est un Fairphone.
Il est recomposé, là, je sais pas quoi, c'est ça.
Oui, c'est le truc qui est réfléchi de bout en bout pour être à peu près correct.
Ouais, je sais pas. Et ça marche bien, parce que paraît-il, ça marche pas bien.
Alors, la batterie ne dure pas aussi longtemps, mais parce que justement, il n'y a pas besoin de passer des heures sur Facebook.
Non, mais moi, je vais te dire, moi, j'ai pas de téléphone.
D'accord, ça
mais j'ai ma nièce qui a fait cette histoire. Elle a dit, non, regarde, je suis green maintenant. J'ai acheté un machin recomposé et elle m'a dit, putain, il y a plein de trucs qui déconnent. Alors, je sais pas ce qu'elle a, je peux pas te dire.
Merci.
Bon, ben voilà, c'était un petit bout de temps avec madame qui est effectivement... très lucide sur le monde dans lequel elle vit et du coup vraiment frappé au coin du bon sens. Tout ça, ça ramène au mauvais fonctionnement de ce monde, de cette société. Longue vie à la lutte des Gilets jaunes, moi j'ai envie de dire, parce que je trouve que on peut choisir de regarder
cette lutte-là par certains angles qui sont dictés par les médias. Là, les gens que j'ai rencontrés, ils me font plaisir un peu, quoi. Et puis, ben, il y a un deuxième appel, du coup, parce qu'à la suite, de la première assemblée, ben, il y a eu un deuxième appel.
Deuxième appel de Commercy, l'assemblée des assemblées. Notre deuxième appel s'adresse à tous les gilets jaunes, à toutes celles et ceux qui ne portent pas encore le gilet, mais qui ont quand même la rage au ventre. Cela fait désormais plus de 6 semaines que nous occupons les ronds-points, les cabanes, les places publiques, les routes et que nous sommes présents dans tous les esprits et toutes les conversations. Nous tenons bon. Cela fait bientôt longtemps. Cela faisait bien longtemps qu'une lutte n'avait pas été aussi suivie, aussi soutenue, ni aussi encourageante.
Encourageante, car nos gouvernants ont tremblé et tremblent encore sur leur piédestal. Encourageante, car ils commencent à concéder quelques miettes. Encourageante, car nous ne laissons désormais plus avoir par quelques os à ronger. Encourageante, car nous apprenons toutes et tous ensemble à nous respecter, à nous comprendre, à nous apprécier dans notre diversité. Des liens sont tissés, des modes de fonctionnement sont essayés, et ça, ils ne peuvent plus nous l'enlever.
Encourageante aussi, car nous avons compris qu'il ne faut plus nous diviser face à l'adversité. Nous avons compris que nos véritables ennemis, ce sont les quelques détenteurs d'une richesse immense qu'ils ne partagent pas. Les 500 personnes les plus riches de France ont multiplié par 3 leur fortune depuis la crise financière de 2008 pour atteindre 650 milliards d'euros. Les cadeaux fiscaux et sociaux faits aux plus grandes sociétés s'élèvent également à plusieurs centaines de millions de milliards par an. C'est intolérable. Encourageante enfin, car nous avons compris que nous étions capables de nous représenter nous-mêmes sans tampon entre les puissants et le peuple, sans parti qui canalise les idées à leur seul profit, sans corps intermédiaire, davantage destiné à amortir les chocs, à huiler le système plutôt qu'à nous défendre.
Nous sommes aujourd'hui les victimes de la répression, plusieurs morts et des dizaines de blessés graves. Maudits soient ceux qui ont permis cela. Mais ils sachant que notre détermination est intacte, bien au contraire, nous sommes fiers de ce chemin accompli vite et de toutes ces prises de conscience qui sont autant de victoires sur le système écrasant. Et nous sentons très bien que cette fierté est partagée par énormément de gens. Comment pourrait-il en être autrement alors que ce système et ce gouvernement qui le représente n'ont de cesse de détruire les acquis sociaux, les liens entre les gens et notre chère planète. Il nous faut donc continuer, c'est vital. Il nous faut amplifier ces pressions, ces premiers résultats, sans hâte, sans nous épuiser, mais sans nous décourager non plus. Prenons le temps, réfléchissons autant que nous agissons.
Nous appelons donc toutes celles et ceux qui partagent cette rage et ce besoin de changement, soit à continuer à porter fièrement le gilet jaune, soit à l'enfiler sans crainte. Il faut désormais nous rassembler partout, former des assemblées citoyennes, populaires, à taille humaine, où la parole et l'écoute sont reines. Des assemblées dans lesquelles, comme à Commercy, chaque décision est prise collectivement, où des délégués sont désignés pour appliquer et mettre en musique les décisions, pas l'inverse. Pas comme dans le système actuel. Ces assemblées porteront nos revendications populaires, égalitaires, sociales et écologiques.
Certains s'autoproclament représentants nationaux ou préparent des listes pour les futures élections. Nous pensons que ce n'est pas le bon procédé. Tout le monde le sent bien, la parole, notre parole, va se perdre dans ce dédale ou être détournée comme dans le système actuel. Nous réaffirmons ici une fois de plus l'absolue nécessité de nous laisser confisquer notre parole par personne. Une fois ces assemblées démocratiques créées, dans un maximum d'endroits, elles ouvriront des cahiers de revendications.
Le gouvernement a demandé aux maires de mettre en place des cahiers de doléances dans les mairies.
Nous craignons qu'en faisant ainsi, nos revendications soient récupérées et arrangées à leur sauce et qu'à la fin, elles ne reflètent plus notre diversité. Nous devons impérativement garder la main sur ces moyens d'expression du peuple. Pour cela, nous appelons donc à ce qu'ils soient ouverts et tenus par les assemblées populaires. Qu'ils soient établis par le peuple et pour le peuple.
C'est pourquoi de Commercy, nous appelons maintenant à une grande réunion nationale des comités populaires locaux. Fort du succès de notre premier appel, nous vous proposons de l'organiser démocratiquement en janvier, ici à Commercy, avec des délégués de toute la France pour rassembler les cahiers de revendications et les mettre en commun. Nous vous proposons également d'y débattre tous ensemble des suites de notre mouvement. Nous vous proposons enfin de décider d'un mode d'organisation collectif des Gilets jaunes, authentiquement démocratique, issu du peuple et respectant les étapes de la délégation. Ensemble, créons l'Assemblée des Assemblées, la Commune des Communes. C'est le sens de l'histoire, c'est notre proposition.
Vive le pouvoir
au peuple, par le peuple et pour le peuple.
Voilà, ça c'était le deuxième appel. Ben, la première assemblée des assemblées a eu lieu. C'était donc en 26 et 27 janvier à Commercy. Ça a donné lieu à un texte que vous pourrez trouver sur leur page Facebook ou sur YouTube. Et maintenant, ben, on va écouter un monsieur qui s'appelle Jo, que j'ai croisé. J'étais en train de faire mon petit tour. J'avais pas spécialement prévu d'arrêter, de rester ce soir-là, mais je crois ce monsieur. Et puis j'entends Saint-Nazaire, Maison du Peuple, et du coup, ben, je suis attiré.
Donc chacun est bienvenu pour apporter ce que vous voulez. Hein, voilà. Dentifrice. Brosse à dents, savon, hein, abonnez avec votre douche. La pomme. Ah ben voilà, donc venez avec votre rideau de douche. Votre rideau de douche. Mr. Becker, on voudrait vous demander que se passe-t-il le jour. Qu'est-ce qui se passera?
Il y a du pain.
Interview.
Non, je suis le programme, ça va être donc le soir, il y aura un repas distribué gratuit.
Je ne sais pas qui c'est.
Non, c'est pas Strasbourg.
Non, il y a
le repas qui
est en parallèle.
Non, c'est Saint-Nazaire, l'assemblée. La prochaine, c'est. Il n'y en a pas eu avant.
Ah, bah, sauf s'il y en a qui vont annoncer des trucs sur le courant.
D'accord, c'est une bonne idée.
Pourquoi j'entends Saint-Nazaire? De Saint-Nazaire, vous avez...
Moi, je viens de Saint-Nazaire. J'étais à Paris, mais là, je viens de Saint-Nazaire. D'accord. Je suis venu de Saint-Nazaire.
Alors, en suivant le mouvement des Gilets jaunes, ou c'est par hasard, en fait, il se trouve que...
Non, je suis à Saint-Nazaire parce qu'il y a la Maison du Peuple.
D'accord. Ouais. Tu peux m'en parler un peu?
Je suis de Radio Libertaire. Okay. Je fais une émission sur les Gilets jaunes de la Place des Fêtes.
Okay.
Et ça tombe genre super bien que tu sois là, quoi.
Okay.
Donc, tu...
J'arrive.
Mais j'arrive. On fera vite ou on marche ensemble, si tu veux. C'est comme tu
Vas-y, on marche un peu ensemble.
Allez, il n'y a pas de problème. C'est cool. Donc, bonjour.
Le mot magique Saint-Nazaire, c'est le mot magique dans ce mouvement.
Non, mais c'est malade, en fait, ouais, c'est vrai un peu. Ouais.
C'est un peu vrai quand même, si on est honnête.
En vérité, moi, franchement, avant le début de la soirée, c'était Commercy, moi, le mot magique.
Mais c'est en train de changer.
Et là, on me dit, ah ouais, mais il y a Saint-Nazaire après, ou avant, ou.
Après. Ouais.
Donc, du coup, je comprends pas. C'est quoi cette histoire?
Bah, en fait, à Saint-Nazaire, t'as entendu parler de la Maison du Peuple ou pas?
Vas-y.
Bah, à Saint-Nazaire.
Ok, d'accord. Fais genre, je suis de la République.
Parce que t'es en train de m'enregistrer là.
Et je veux. Et
ah non, si, je fais, si tu fais genre, je vais me vénère. Tu vois, j'ai pas envie de me vénère avec toi, t'as l'air sympa. Alors, à Saint-Nazaire, depuis le 24 novembre, les Gilets jaunes là-bas occupent la Maison du Peuple, qui est un ancien, qui est un local qui avant abritait les bureaux du Pôle emploi, et ça a été aussi pendant quelques mois une sous-préfecture. Et donc, une semaine après le début du mouvement, il y avait une mobilisation devant la sous-préfecture actuelle de Saint-Nazaire, dans l'idée en fait d'organiser une assemblée générale à l'intérieur de la sous-préfecture. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Et donc, il a été décidé d'aller donc, dans l'ancienne sous-préf, qui était aussi l'ancien Pôle emploi, pour occuper les locaux et pour que ça serve à la fois pour organiser le mouvement localement. Et puis, en fait, c'est aussi devenu un lieu d'habitation. Donc, tu as quotidiennement une vingtaine de personnes qui vivent là-bas, des âgés qui se tiennent tous les jours depuis donc 3 mois maintenant. On a fêté les 3 mois il y a quelques jours.
D'accord.
À 18h. Okay. Et on est une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, ça dépend des soirs. Et donc, on organise le mouvement sur Saint-Nazaire et alentour, à la Maison du Peuple, en lien avec tous les ronds-points, que ce soit à Saint-Nazaire ou dans les villes environnantes. Et donc, on avait, comme pas mal de délégations, un groupe qui s'est rendu à Commercy fin janvier pour la première assemblée des assemblées. Mmh. Et à Commercy, il a été voté, il a été décidé que la deuxième assemblée des assemblées se tiendrait à Saint-Nazaire, organisée D'accord. par la Maison du Peuple.
C'était le 26-27 janvier ?
C'est ça.
Ok.
Et donc là, la deuxième, elle a lieu les 5, 6 et 7 avril.
D'accord.
Et donc, on est à fond dessus. Voilà, c'est, ça nous occupe parmi tant d'autres choses, parce que tenir un lieu comme ça, c'est pas simple. On avait des craintes d'être expulsé il y a encore quelques jours. Et puis finalement, on a réussi à négocier avec le promoteur pour pouvoir rester dans ce local pendant encore à peu près 2 mois.
D'accord.
Et voilà, et donc Saint-Nazaire a aussi acquis, on va dire, un peu une espèce de réputation. C'est un peu bizarre d'employer ce terme, mais bon, c'est le mot qui me vient à l'esprit là, ouais, ce soir. Parce qu'en fait, ça a été le premier endroit occupé dans le cadre du mouvement, et puis ça a été aussi le premier lieu occupé qui a été nommé Maison du Peuple.
D'accord.
Et donc depuis, il y a eu d'autres endroits aussi qui ont été pris par des gilets jaunes, qui s'appellent Maison du Peuple. T'en as qui ont tenu, d'autres non.
D'accord.
Parce que voilà, on voit que très vite les autorités réagissent. Mais aussi, et c'est ce qui avait été dit à Commercy, on avait lancé, nous, un appel, justement, c'était l'appel pour des Maisons du Peuple partout.
Ok.
Et où on encourageait justement un maximum de groupes et d'assemblées de gilets jaunes à se trouver un lieu en dur, tu vois, pour ouais. pouvoir justement coordonner, structurer le mouvement à partir de ça. Et donc depuis, on a des gens qui nous contactent, ils nous demandent à la fois des retours d'expérience sur nous, tout ce qu'on vit, sur comment on a fait, que ce soit sur des questions de comment t'organises un lieu pareil, sur des questions plus juridiques. Ouais. L'autre fois, on avait des gens, ça faisait 2 jours, ils tenaient un lieu, ils nous ont demandé une aide très concrète, en mode, il y a les gendarmes en face de la baraque, comment on fait, enfin, tu vois, des trucs... Et c'est vrai que là, cette dynamique-là, elle est aussi présente dans le mouvement. Et là, on est en train de recevoir plein d'inscriptions, et on voit dans certains mails des gens qui nous disent nous aussi, on est en train d'envisager de trouver notre Maison du Peuple.
Et alors du coup, qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que c'était sincèrement la question que j'allais te poser, quoi. Comment t'organises l'endroit, etc. Mais apparemment, il y a 10 000 personnes qui te la posaient avant, qui vous la posent avant. Alors, du coup, une autre question. Toi, comment tu vis? Comment tu participes à l'endroit? Qu'est-ce que toi, individuellement, tu fais dans ce lieu?
Donc moi, j'y vis. Parce que, ouais. en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a une vingtaine de personnes qui y vivent. Et après, il y en a plusieurs dizaines qui viennent quotidiennement pour participer aux réunions, aux AG, aux actions.
D'accord. Pourquoi tu y vis?
Alors moi, quand j'ai commencé à m'impliquer à la Maison du Peuple, enfin moi, parce que moi je suis pas de Saint-Nazaire à la base, mais j'y vivais pas. J'ai fait plusieurs semaines où je venais tous les jours et je participais aux réunions, aux âgés, mais j'y vivais pas. Et à un moment donné, j'étais frustré de pas pouvoir aller au bout de la démarche, en fait. J'avais envie de vraiment comprendre, de comprendre jusqu'au bout, en fait, qu'est-ce que ça impliquait justement de d'être dans ce mouvement et d'être vraiment dans la Maison du Peuple, ouais. que ce soit le jour et la nuit. Et du coup, pour répondre à ta question de tout à l'heure sur voilà, qu'est-ce que j'y fais, alors bah, moi, je, en ce moment, je participe beaucoup à la préparation de l'Assemblée des Assemblées.
D'accord.
On a plusieurs groupes de travail sur différentes questions, des trucs de quel déroulé pour l'Assemblée, des trucs logistiques, des trucs de financement, etc. Donc moi, je suis un peu dans la coordination de ces groupes-là. Je fais aussi partie d'un groupe qui est en train de réfléchir à comment on pourrait créer notre propre média dans une logique justement de se réapproprier notre récit, de pouvoir communiquer nous-mêmes. Bah non mais je veux bien te croire. De communiquer nous-mêmes justement sur ce qu'on vit.
Je te disais parce que j'étais à TV Debout.
D'accord. Donc, ok. Ouais, d'accord.
Ouais. Donc j'ai. Non, bah, ah non, oui.
C'est d'autres gens. Et donc je fais aussi partie de ce groupe-là, parce que moi je suis un peu dans le documentaire à la base, donc
okay.
C'est des trucs qui m'intéressent. Et puis je participe aussi aux actions diverses et variées, sans rentrer dans le détail.
D'accord. Est-ce que tu pourrais me parler du processus de, pas de décision, mais de mise en mouvement d'un lieu tel que la Maison du Peuple? Est-ce que toi, tu y étais dès les premiers jours, ou est-ce que tu as rejoint alors qu'il y avait déjà quelque chose qui était en place? Et quand c'était en place, comment tu l'as rejoint? Comment tu as été accueilli? Comment tu as commencé à rentrer dans les processus, dans la fabrication de la vie au quotidien, quoi?
Alors moi je suis arrivé à peu près un mois et demi après le début de l'occupation.
D'accord.
Donc c'est vrai que c'est assez difficile pour moi de te parler de ces premiers moments. Moi je suis arrivé, mes premiers moments c'était un dimanche sur la réunion d'un petit groupe de travail. Et où direct on m'a dit prends une chaise, fais comme tout le monde, participe aux discussions. C'est ce que j'ai fait. Ça s'est tout de suite très très bien passé. Et puis après j'ai eu une discussion avec quelques personnes. Ils m'ont dit écoute, ce lieu il est ouvert à tout le monde. Nous ce qu'on dit à chaque fois c'est à la fois un lieu qui est très solidaire et à la fois on encourage à l'autonomie. Donc toi si tu veux venir ici, bah file-nous un coup de main. Voilà, il faut que tu trouves ta place par rapport à aussi ce que tu as envie de faire, ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter, etc. Donc moi je les ai pris au mot.
Ouais.
Et donc j'avais déjà des expériences un peu dans des fonctionnements collectifs, dans d'animation, de réunions, dans des trucs plutôt liés à l'audiovisuel. Et donc c'est un peu là-dessus que dans les premières semaines, moi j'ai essayé de filer un coup de main. Et ce qui m'a en fait vraiment bouleversé, c'était la facilité avec laquelle j'ai pu trouver une place dans ce lieu, alors qu'en fait c'était presque un peu impressionnant de franchir, tu vois, la première fois la porte de la Maison du Peuple.
Parce que la Maison du Peuple et ce concept de cabane et tout ça, c'est quelque chose d'hyper local.
Ouais.
J'ai l'impression que toi, t'étais pas forcément du coin. Ouais. Je me trompe ou...
Ah non, j'étais pas du coin. Moi, je vivais à Paris et j'avais décidé il y a déjà un sacré bout de temps de quitter Paris définitivement. Et j'étais parti pour un tour en camion en fait.
Ouais.
Et sauf que à peu près au moment où j'ai quitté Paris, il y a eu le début du mouvement.
Ouais.
Et à ce moment-là, j'ai découvert le premier appel de Commercy.
Ouais.
Qui voilà est un appel qui encourageait les Gilets jaunes à se former en assemblée populaire.
Ouais.
Qui dénonçait l'apparition de ces leaders autoproclamés. Et dans leur appel, ils citaient notamment la démarche de Saint-Nazaire qui, comme je disais tout à l'heure, au bout d'une semaine, le 24 novembre, avait pris ce lieu et puis allait dans le même sens de Commercy d'un point de vue d'une assemblée populaire, tu vois, sans leader autoproclamé, quoi. Et donc c'est vrai que moi, je me retrouvais personnellement beaucoup dans cet appel-là. Ayant commencé mon parcours pas forcément très très loin de Saint-Nazaire, à un moment donné, je me suis dit il se passe quelque chose de vraiment particulier, de vraiment fort politiquement et humainement. Enfin, je le sens, c'est ce que je lisais dans des articles, c'est ce que je voyais dans des vidéos. Et donc je me suis dit, moi j'ai pas envie d'être à côté de ça, quoi.
D'accord.
Et j'y suis allé et j'y reste en fait.
Tu disais que tu avais une expérience dans l'animation. Qu'est-ce que tu veux dire?
Au moment où on se parle, on est avec des copains et des copines d'une asso qui s'appelle les Lucioles du Doc.
Ouais.
Et qui est une asso qui, pour faire un résumé court, qui fait de l'éducation populaire politique grâce au documentaire.
Okay.
Et donc à la fois, dans des espaces assez variés en Ile-de-France, on diffuse des films qu'on sélectionne nous-mêmes.
D'accord.
Et on fait aussi des ateliers de réalisation, que ce soit avec des lycéens, des lycéennes, avec des personnes détenues, etc. Enfin, dans divers espaces comme ça. Et voilà, l'idée c'est aussi
de créer des espaces de parole autour de différents films pour que les gens puissent se réapproprier tout un tas de questions politiques et puissent mieux comprendre comment fonctionne notre société, comment se mettent en place tout un tas de rapports de domination.
D'accord.
Donc moi j'ai été, je suis assez impliqué dans cet assaut.
Ok.
Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le premier jour où je me suis retrouvé à la Maison du Peuple, le premier temps de discussion dans lequel j'étais, on était sur un sujet où moi j'avais fait genre 2 ans d'atelier d'animation sur ces trucs-là, tu vois, sur des questions de représentativité en politique, etc.
D'accord, ok.
Donc, ouais. Ce qui fait que pour moi, c'est un espèce de presque un clin d'œil symbolique, ouais. Très fort.
Ouais. Non, c'est du destin, carrément.
Allez, n'ayons pas peur des mots. et c'est vrai que ouais, ça m'a aussi beaucoup aidé à trouver une place. Mais bon, même sans ça, je pense que je l'aurais trouvé parce que la Maison du Peuple, elle est vraiment très ouverte, quoi.
Mais est-ce que tu peux parler d'outils ou ça serait presque un peu vulgaire
par rapport à ce qui se passe à la Maison du Peuple?
Ouais.
Je suis pas sûr que ce soit forcément. Non, ce serait pas vulgaire. Après, c'est pas forcément, je pense, le truc le plus intéressant. Là, en soi, il y en a quelques-uns, des outils, tu vois, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse s'écouter, etc.
Trucs des indignés, comme ça, les gestes,
pas tout
machin,
le monde, en fait.
Ça. Ouais.
Mais moi, en fait, moi, je pense que ces gestes-là, là, des indignés, des mouvements de place, je pense que c'est à la fois, il faut pas les bannir, à la fois, il faut pas les obliger, tu vois.
Ouais.
Donc, en soi. Un jour, il y a des personnes qui en ont parlé, notamment aussi parce que c'est vrai qu'on l'avait beaucoup vu à Commercy. Et du coup, il y a des gens qui se les approprient, parfois de manière très sérieuse, parfois de manière un peu détournée, parfois pas du tout.
D'accord.
Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça fonctionne bien comme ça.
Et il faut que ça ait du sens, quoi, à chaque fois, en fait, c'est ça?
Ouais, mais après, en soi, tu vois, on a quelques outils qui sont vraiment là, comme je disais tout à l'heure, sur faire en sorte que la prise de parole se passe bien. Donc on a un bâton de parole, on lève la main avant de la prendre, on a toujours une personne qui assure la modération, donc pour faire en sorte que qu'on s'écoute bien. Mm-hmm. On n'est pas non plus dans l'obsession de l'outil, mais on est bien conscient que cet espace-là, c'est aussi un espace où on est nombreux et nombreuses à apprendre, être aussi beaucoup plus dans l'écoute,
ouais.
Par rapport aux habitudes qu'on pouvait avoir et ces outils-là, sans forcément tomber dans une obsession d'outils, ils peuvent servir.
D'accord.
Et c'est ça qui est en fait fondamental, mais ça c'est depuis le début du mouvement, c'est ce truc de ces espaces collectifs qui se créent, et là on n'a pas besoin d'une Maison du Peuple pour ça, un rond-point c'est déjà ça.
Donc je sens que ta motivation pour faire partie de ce mouvement est une motivation assez, assez profonde, parce que je veux dire, c'est pas par hasard que tu es dans des mouvements d'éducation populaire, que tu es acteur là-dedans. Donc il y a quelque chose qui nourrit et qui a fait que c'était d'autant plus facile de la rencontre avec les Gilets jaunes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te relie toi précisément à cette lutte?
Comme tu l'as dit, il y a une continuité par rapport à. Là où moi je m'impliquais avant quand j'étais à Paris et là où je m'implique maintenant à Saint-Nazaire, clairement il y a une continuité logique dans laquelle je me retrouve. Après moi d'un point de vue, personnellement je ne suis pas touché dans ma chair par des difficultés au quotidien, tu vois, ce qui a pu être un peu. Un des points de départ du mouvement des Gilets jaunes, disons qu'au début on a pu dresser, et c'est pas forcément, je suis pas forcément pour ce type de démarche, mais on a pu dresser un profil un peu type, tu vois, du Gilet jaune.
Ouais.
Clairement, s'il fallait dresser le mien, j'en fais pas partie, tu vois, de ce profil type. Mais moi justement au contraire, ce qui m'intéressait, c'était que moi je me retrouvais dans ce que j'entendais, dans les revendications, dans la manière de se mobiliser. Et que ce soit sur le fond et que ce soit sur la forme. Et je trouvais que justement, l'intérêt de ce mouvement et la richesse de ce mouvement, c'est qu'il laissait la place à tout un tas de personnes, tu vois. Et que tu n'avais pas besoin d'être en galère pour finir tes fins de mois pour te dire gilet jaune, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de le porter et de se dire gilet jaune et pas de m'impliquer, mais en étant un peu à l'écart, tu vois. En mode, oh, moi, ça va, j'ai un peu de sous de côté, j'ai une famille qui peut me soutenir. Je vous soutiens idéologiquement, mais concrètement, je ne suis pas non plus un vrai gilet jaune. Enfin, si, moi, je me considère être un vrai gilet jaune parce que je pense que c'est un mouvement, justement, qui laisse cet espace-là. Et les moments à la Maison du Peuple qui sont les plus forts, les plus vivants, c'est justement les moments où, où ces croisements-là, tu vois, dans ces parcours de vie les plus divers, ils se font. Ils se font, en fait. Ouais. Quand ces croisements, ils se mettent en place. Et c'est là où, moi, j'ai l'impression que...
Tu peux me raconter
que
ça,
pas
par
fini,
exemple
en fait. Que genre, tout est possible.
Justement, ça, tu pourrais me le décrire ou un truc que tu as vécu auquel tu penses quand tu dis ça.
Je crois qu'on continue, mais je vais répondre à ta question. Là-bas, en bas, là.
Ok. Et vous... Mais en fait, on va se poser.
Ah, okay. On les attend ou on nous rejoigne?
On y va, nous, et on se pose. Et,
bah, on peut... bah, c'est jusqu'au croisement Belleville. Excusez-moi. Non. C'est ça, peut-être tu reviens de Saint-Nazaire, laisse tomber quoi. Il y a des gens qui tendent des micros, c'est pas possible.
Oui, je te demandais. Je te demandais en fait si tu avais ces moments de résonance entre ce que tu dis, ce que tu ressens, est-ce que tu en avais déjà vécu et voilà. Je te demandais de me raconter éventuellement ça.
Ok. Non, mais ça j'en ai vécu, c'est chier la manière de te les raconter. Tiens, en fait, ce que je trouve vachement fort, c'est quand tu sens qu'il y a... Tu vois qu'on va en nager, on va décider d'une action, par exemple pour un samedi, et que tu sens que vont s'imbriquer dans la réalisation de cette action tout un tas de dynamiques, de personnes qui, s'il n'y avait pas eu le mouvement, ne se seraient pas forcément rencontrées. Des personnes de, voilà, qui vont être entre 14 piges et 75. Où t'en as qui vont se mettre en branle pour aller faire des pancartes, d'autres qui vont se mettre en branle pour je sais pas, faire des comptes rendus, d'autres qui vont se mobiliser pour se bouger, pour être en manif, pour envoyer du mouvement, tu vois. Et où tout ça fonctionne ensemble et où tu sens aussi en fait dans cet espace-là et dans cette lutte des personnes qui... ça, je le sens et je le sais aussi parce que je l'ai entendu, mais ça, on l'a entendu aussi de manière générale dans pas mal de témoignages, que t'as des gens qui se mobilisent, qui manifestent pour la première fois de leur vie, et tu sens en fait la... ce que ça a pu créer, ce que ça a pu générer chez eux comme perspective complètement nouvelle, et comment ils ont pu aussi, j'ai l'impression, avoir accès intérieurement à quelque chose de complètement nouveau. Et tu vois des gens qui prennent des initiatives. Je pense que s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, ils n'auraient jamais pris de leur vie. Et tu sais, typiquement, je ne vais pas le citer, je sais pas où est-ce que ça va terminer, ce que tu es en train de faire avec moi là.
Bah, à la radio et sur internet, et ça sera écouté par les RG. Voilà.
T'as un gars, alors qu'on n'était pas très loin d'une audience au tribunal où on craignait l'expulsion du lieu, qui est un peu parti en mode le promoteur qui possède les lieux, il faut y aller, il faut négocier, alors que bon, il n'y avait pas grand monde qui croyait là-dedans, tu vois.
Ouais.
Parce que c'est une procédure, ça faisait quasiment 3 mois qu'elle était en cours. Et écoute, le gars, il y est allé. Et puis en fait, il nous a, grâce à son espèce d'élan de folie, tu vois, personne suivait. Mmh. Le mec, il nous a gagné 2 mois, tu vois. Et 2 mois dans ce qu'on est en train de vivre, c'est sacrément précieux. C'est d'autant plus précieux que dans 5 semaines, on accueille la 2e Assemblée des Assemblées. Et que si dans cette période-là, il aurait fallu qu'on gère en plus de ça une expulsion, je peux dire que ça aurait été sacrément compliqué. Tu vois. Et franchement, le mec qui a fait ça, c'est pas un profil militant à la base. Enfin, tu vois, j'ai l'impression, je le connais pas par cœur, ça fait quelques semaines que je le côtoie, mais moi c'est un truc, c'est une démarche qui m'a bouleversé quand il est arrivé en mode non mais attends, on va négocier machin, on y va, mais pourquoi on fait pas ça, tu vois. Et alors que nous, on était tous dans le truc un peu clivant, genre, non, mais le promoteur, il ne voudra jamais nous parler, tu vois. Lui, il est dans son truc, tribunal, machin, expulsion. Et lui, il a porté ce truc-là. Et en fait, des exemples comme ça, moi, j'ai l'impression d'en avoir vu plein. Et c'est ça qui est unique dans ce mouvement. C'est aussi... C'est vraiment les personnes qui participent. C'est une richesse, une diversité qui est absolument incroyable. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde.
À une époque, quand j'étais dans le mouvement Nuit Debout, on disait on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Et chez vous, j'ai l'impression que c'est plutôt on nous a dit que c'était impossible, alors on l'a fait.
Peut-être, ouais. Peut-être que c'est ça, après, je...
On le fait, quoi.
Après, je sais même pas si en fait il y a si un slogan il peut vraiment résumer ce qui est en train de se passer. En fait, je pense que je pense qu'on est dans l'expression de quelque chose qui est là depuis qui est intériorisé depuis tellement longtemps. Tu vois.
Ouais.
Et c'est ça qui fait le caractère très inattendu. À la fois de l'émergence du mouvement et puis à la fois des formes qu'il peut prendre et des formes, j'espère, qui va des formes même surprenantes que j'espère il va continuer à prendre, parce que je pense qu'on est aussi à un moment donné où là, après plus de 3 mois, je pense qu'il y a aussi le besoin de réfléchir à comment ce mouvement s'organise et comment il pourrait aussi retrouver un espèce de second souffle.
Mmh.
Mais je pense que ouais, au-delà d'une question de slogan, il y a ça qui s'exprime, tu vois. Et moi, en fait, l'idée qui m'habite depuis le début, c'est l'idée de qu'il n'y aura pas de retour en arrière, tu vois. Il pourra y avoir, pour X ou Y raison, des baisses de régime, des tensions, des embrouilles internes, de la fatigue, plein de trucs, tu vois. Mais je pense qu'on a atteint un niveau où là, ça repartira prochainement. Si ça se casse la gueule demain, ça repartira prochainement. Et ouais, pour moi, c'est plutôt ça l'idée, en fait. C'est que là, moi, j'ai l'impression que c'est pas un énième mouvement social, c'est que il y a une forme de rupture qui était absolument nécessaire. Alors oui, ça pose la question de qu'est-ce qu'on construit là-dessus, comment on s'organise. Enfin, c'est toutes les questions qui nous empêchent de dormir la nuit sur l'Assemblée des Assemblées, tu vois. Comment on organise un truc pareil sans que cet espace-là de l'Assemblée des Assemblées, ça devient une espèce de nouvelle institution, une espèce de prise de pouvoir. Enfin, ça nous obsède, en fait. L'idée, c'est qu'on puisse se voir, qu'on puisse se parler, qu'on puisse apprendre à se connaître, mais que dans tous les cas, maintenir en fait l'importance de ce qui se crée localement, ce qui se raconte localement, c'est l'absolue nécessité du mouvement. Il faut que ça reste comme ça, tu vois. Et si on peut avoir des outils, tu vois, comme l'Assemblée des Assemblées, pour là je suis un peu en train de le vendre, mais pour essayer de nous entraider.
T'es juste en train de l'organiser, donc en même temps.
Je suis un peu obsédé par ce truc-là.
Là, c'est normal.
Mais on sent, tu vois, et ça c'est important de le dire, tu vois, on sent que le mouvement des Gilets jaunes, de toute façon depuis le début, c'est les mouvements, c'est un truc qui est pluriel, c'est un truc qui est ultra complexe, et c'est ça qui est, ça doit continuer à l'être, évidemment. En soi, il y a une espèce de mouvance un peu assemblée des assemblées, comme il y en a d'autres, tu vois, comme il y a des mouvances un peu autour de certains personnages plus ou moins charismatiques, etc. Et on sent bien, côté Assemblée des Assemblées, qu'il y a de la méfiance, qu'il y a ce truc, attends, mais c'est en train de devenir une institution, ce truc-là, on n'en veut pas. Alors qu'en fait, pour les personnes qui ont vécu la première à Commercy, c'était pas le cas. C'était pas une prise de pouvoir, tu vois. C'était pas une prise de pouvoir. Alors il y a eu des réflexions sur le fait qu'on entendait beaucoup des discours militants, parce qu'effectivement, je pense que dans une partie des gens qui étaient présents, il y avait des personnes qui avaient une grosse expérience militante ou syndicale ou autre. C'est des questions, nous aussi, qu'on se pose beaucoup, justement, comment...
Mais en fait, il y a plein de questions en fait, qui s'ouvrent derrière tout ça. Et moi, je trouve que la plus grosse question, c'est est-ce que la démocratie de masse, c'est possible, quoi. Et alors, vous êtes en train de vous poser la question de manière pratique. Et c'est extrêmement passionnant, je trouve. Personnellement, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est... cognitivement pas possible, mais du coup j'imagine aussi que c'est un point de blocage sur lequel vous êtes déjà arrivé, ou sur lequel vous avez, que j'avais déjà abordé, et que vous essayez de voir comment on peut contourner ce blocage, quoi. Et en tout cas, qu'est-ce qu'il faut garder dans ces cas-là? Alors, qu'est-ce qu'il faut, à ton avis, garder pour le coup, tu es dans l'organe de l'Assemblée des Assemblées, qu'est-ce qu'il faut garder à tout prix?
Alors, moi, je pense que déjà, il faut que cette... Enfin, ce qu'on est en train de se dire en ce moment, c'est que l'Assemblée des Assemblées, enfin l'épisode 2 en tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres épisodes, plutôt que de mettre l'accent sur des débats, sur des revendications ou sur voilà, quelle société nouvelle on pourrait construire, nous, il nous semble urgent de réfléchir d'abord à comment collectivement on définit l'Assemblée des Assemblées. En fait, à quoi ça peut nous servir? C'est quoi cet espace? Parce que c'est un espace qui, en tout cas dans les personnes qui participent, est amené à se reproduire. On se dit qu'un mois et demi après Saint-Nazaire, on aimerait qu'il y en ait une autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première question fondamentale. Et après, mais là, je parle plutôt en mon nom, parce que c'est pas du tout des décisions qui sont actées au niveau de la Maison du Peuple, de Saint-Nazaire, mais... Moi, je pense que la question fondamentale aussi, c'est la question de l'échelle, tu vois. Enfin, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est, pour moi, en fait, il faut aussi qu'on arrive à se dire est-ce qu'on a envie de creuser la direction, justement, de renforcer localement, tu vois, la manière dont on est en train de s'organiser tous et toutes, et de voir comment, si on renforce localement tout ça, ces organisations, que ce soit à travers des Maisons du Peuple ou autres, on peut arriver à créer du lien, à faire des choses ensemble, parfois, parfois non, parfois oui. Ou est-ce que, direct, on part sur des trucs, échelle nationale, des outils genre le RIC, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ces trucs-là qui sont un peu en tension. Moi perso, dans mes affinités, effectivement, des échelles nationales, j'ai du mal à y croire sans reproduire en fait tout ce qu'on est en train de dénoncer. J'ai l'impression que notre énergie, il faut qu'on la mette justement sur... Là, on a la Maison du Peuple. La Maison du Peuple, elle a eu cet écho parce qu'on a été le premier groupe à occuper un lieu localement. Je pense que la Maison du Peuple devrait arriver, tu vois, justement, à, de par son fonctionnement, essayer de trouver un fonctionnement plus pérenne dans le contexte dans lequel on est, tu vois, en prenant en considération bah, le fait que on a aussi tout un tas, que ce soit au niveau mairie... préfecture, État, police, justice, etc. Tout un tas d'ennemis. Et de voir comment, à partir de ça, on peut arriver à s'organiser sur le long terme. Tu vois.
D'accord.
Et moi, personnellement, j'aurais tendance à vouloir explorer plutôt cette voie-là. Ce qui n'empêche pas, en fait, de parler avec les autres, tu vois, avec les autres groupes, et de continuer à faire des assemblées.
Une sorte de fédéralisme?
Peut-être, ouais. Tu sais, On a eu un journaliste qui est venu nous parler là du Rojava il n'y a pas très longtemps. Du Rojava il n'y a pas très longtemps.
D'accord.
Du Rojava, en fait, c'est du...
Ah oui.
Le municipalisme libertaire, oui, de Murray Bookchin, etc., oui. qui est mis en application là-bas. C'est des trucs aussi qui sont intéressants pour le mouvement. Ouais. Je sais qu'à Commercy, il y en a plusieurs qui s'y intéressent. Et ça ne va pas du tout dans le sens de renforcer, tu vois, des organisations à l'échelle étatique, quoi que ce soit. C'est au contraire essayer de réfléchir à comment localement on remet en place des espaces, des assemblées, tu vois, où ouais. on a un maximum de personnes.
Le municipalisme qui... éventuellement.
Ouais.
Ouais. D'accord.
Donc ouais, c'est... je pense que c'est aussi cette... C'est aussi une des questions qu'il faudra discuter, que ce soit sur cette assemblée ou la prochaine ou les autres, mais ouais. Cette question de l'échelle, de toute façon, la question de l'échelle en politique, je pense qu'elle est... C'est une des premières questions à se poser, quoi. Comment on s'organise et où est-ce qu'on met un peu l'ordre de priorité des échelles, tu vois? Est-ce que direct on repart sur du modèle État-nation comme on connaît, et donc comment dans le cadre État-nation on essaie d'imaginer des outils qui puissent permettre à la population de s'exprimer autrement que par le vote tous les 5 ans pour un président? Ou est-ce qu'en fait on estime que dans ce cadre-là c'est pas la peine d'essayer, c'est vain? Les positions sont plurielles sur cette question, c'est certain.
Il faut les explorer, il faut les documenter, faut les rechercher, il faut les comprendre. Merci beaucoup.
Et merci.
J'espère qu'on restera en contact.
Donc merci à tous pour votre écoute ce soir. Donc l'émission se termine. J'ai pas pu passer toutes les personnes que j'ai interviewées sur la place des fêtes. Je suis désolé pour les personnes qui ont passé un peu au filtre. L'essentiel pour moi, c'était de donner un peu l'ambiance de cette place occupée par des gilets jaunes du 20e arrondissement et de voir comment avec eux ils se reliaient au grand mouvement, à grandes assemblées des assemblées des gilets jaunes et comment tout ça faisait un aller-retour sans cesse. Donc une petite cabane sur la place des fêtes qui fait écho à l'assemblée des assemblées de Commercy dans la Meuse, maintenant bientôt Saint-Nazaire. Et tout ça s'organise ainsi. Je laisse la place à l'émission suivante. Et voilà. Bonne soirée et à dans un mois.
À ceux qui ont le blé, je me balade dans les grandes surfaces. J'ai pas assez, mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser sur, à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes.